Très bien. Bah, écoutez, mesdames, messieurs, juste un petit mot d'introduction parce que Emmanuel m'a invité à le faire. On est très heureux avec les élus saboliens de vous accueillir dans ce cinéma Confluence qui retrouve un peu d'influence d'ailleurs. Ça fait du bien, même si on aurait aimé qu'il y ait plus de monde en salle ce soir. En tout cas, on est très heureux de bénéficier de cette conférence avec Monsieur Janco ici. On a beaucoup de choses à apprendre, effectivement, sur les enjeux de demain, mais qui sont les enjeux d'aujourd'hui, je pense surtout. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Emmanuel, je crois. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie encore de votre présence ce soir ici, dans cette salle.
Merci, merci Monsieur le maire, merci Nicolas. Maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés est un impératif proclamé tel par la ratification de l'accord de Paris et qui nous somme de passer d'une logique d'intention et d'ambition à une logique d'action et d'exécution. Que ce soit en matière d'urbanisme, de biodiversité, d'industrie, le champ couvert par la transition écologique est large et appelle à une modification de nos comportements, de nos objectifs et des politiques que nous menons. Face aux conséquences directes de nos modes de vie, de nos habitudes de consommation, de notre rythme de production actuel, la question n'est plus de savoir si nous devons agir, mais bien de définir comment nous allons agir. Nous devons être à la hauteur des enjeux. Éteindre la lumière en sortant d'une pièce ou trier ses déchets ne suffiront plus. La réussite de la transition écologique en Sarthe sera donc étroitement dépendante de la pertinence de sa déclinaison dans nos territoires, mais aussi de l'appropriation de cet enjeu de l'ensemble des publics et en premier lieu par l'ensemble des élus et agents territoriaux. C'est dans cette logique que le Pays Vallée de la Sarthe a élaboré son plan climat en concertation avec les 62 communes et les 3 communautés de communes qui le composent. Ce plan est en effet issu d'une démarche qui impliquait l'ensemble des parties prenantes locales, aussi bien citoyens qu'acteurs associatifs, dirigeants d'entreprises ou commerçants. Il s'est traduit en objectifs concrets: réduire nos consommations énergétiques de 16% d'ici à 2030, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 15%, tout en augmentant nos capacités de stockage de carbone de 18% d'ici 2030 et en multipliant par 2,5 la production locale d'énergie renouvelable. Nous n'allons pas nous satisfaire d'actions marginales, de compensations sans réduction ou d'annonces non suivies d'actions. Ensemble, nous allons repenser nos modes de déplacement, nos modes de chauffage, nos habitudes de consommation et de travail, et plus globalement, notre rapport à la nature. Ensemble, nous allons imaginer, instaurer ou adapter des solutions qui soient cohérentes avec nos territoires ruraux et avec nos spécificités locales. Les collectivités territoriales ont des leviers majeurs à leur disposition au travers des domaines et des compétences dont elles se saisissent: organisation de la voirie, mobilité, aménagement du territoire, construction, gestion du patrimoine bâti, gestion des déchets, reconversion des emplois. À nous d'identifier les activités à risque, à nous de valoriser les formations de nos équipes, à nous d'assurer l'information éclairée de nos concitoyens. Tout cela sans oublier que la transition à impulser se mène également par des actes individuels. De mon côté, j'ai fait le calcul de mon empreinte carbone, 11 tonnes. Je suis dans la moyenne française, mais pour donner, je sais, mais pas encore, je vais quand même attendre votre conférence, monsieur, donc aussi. Mais pour donner à chacun les moyens d'atteindre l'ambition des 2 tonnes prônée par l'accord de Paris, nous allons devoir proposer des alternatives sérieuses à chacun de nos concitoyens, sans laisser de côté l'aspect social, sans créer d'exclusion ou de problèmes socio-économiques, sans oublier que la réussite de la transition écologique est indissociable de l'acceptabilité sociale. Le chemin sera long et incertain, mais le défi est palpitant. Et pour nos enfants, il est vital, littéralement. Agissons donc toujours avec une ambition renouvelée. Merci à notre invité exceptionnel, Jean-Marc Jancovici, de nous faire l'honneur de sa présence à Sablé-sur-Sarthe ce soir. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci également à celles et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Et merci à l'équipe technique d'avoir géré l'organisation de cette soirée sous la houlette de Céline Biel, la directrice du Pays Vallée de la Sarthe. Bonne soirée à tous.
mets mes lunettes de mamie. Alors, bonsoir à tous. Moi aussi, je vous remercie d'être présents ce soir. On aurait dû être 200, on aurait largement rempli la salle. En effet, on a voulu privilégier la présence des élus ici ce soir du territoire du syndicat Pays-Vallée de la Sarthe. Mais on aurait aimé accueillir plus de personnes en présentiel, d'autant que certains étaient prêts à venir d'Angoulême pour assister à cette conférence. Nous avons donc la chance d'accueillir ce soir Jean-Marc Jancovici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Marc est ingénieur de l'école polytechnique, diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications. Il est le créateur du bilan carbone qu'il a développé au sein de l'ADEME. Il a cofondé en 2007 avec Alain Grandjean Carbone 4, un cabinet de conseil qui réalise des bilans carbone pour les entreprises. J'ai copié-collé Wikipédia, je ne me suis pas cassé la tête. Ainsi que l'association The Shift Project en 2010, qui est un laboratoire d'idées, qui s'est donné pour objectif l'atténuation du changement climatique et la réduction de la dépendance de l'économie aux énergies fossiles. Il est également membre du Haut Conseil pour le climat. Et je vous passe ses autres activités, dont la liste est longue comme le bras. J'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Marc l'année dernière, c'était même il n'y a plus de ça, c'était au mois d'octobre 2019, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Jean-Marc était venu faire une intervention de 5-6 minutes. C'était pas beaucoup d'ailleurs, c'était pas assez, mais bref, après on a bu un coup ensemble, on a fait connaissance. Et ensuite j'ai voulu participer à un atelier du Shift Project. La Shift fait des ateliers, je crois que c'est tous les mois. Alors depuis le Covid, c'est en visioconférence, mais c'est pratique aussi parce que les ateliers sont à Paris. Et je ne vais pas à Paris tous les mois. Voilà, quand je me suis inscrite, les équipes du Shift ont vu que je faisais partie de la convention. Et du coup, ils m'ont repérée, ils m'ont dit « Est-ce que vous voulez pas participer à une table ronde avec Jean-Marc ?» Bon, d'accord. Et s'en est suivi une série d'interventions, donc d'abord en présentiel, ensuite en visioconférence. Et depuis, on a gardé le lien. Voilà comment aujourd'hui l'illustre Jean-Marc Jancovici est aujourd'hui à Sablé. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être là parce que bon, c'est pas non plus une contrée qui visite souvent. Comme tu nous disais tout à l'heure, tu passes mais tu t'arrêtes pas. C'est tout moi. Hein. Je passe la parole à Céline pour le côté technique de la soirée. Merci à tous.
Merci, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Donc je m'appelle Céline Biel, je suis la directrice du Pays-Vallée de la Sarthe. Donc au vu du contexte sanitaire, évidemment, on vous demande de garder vos masques pendant la durée de toute la conférence et de respecter les gestes barrières. Ça fait un peu hôtesse de l'air quand je dis ça, mais vraiment, c'est important. Donc la jauge est limitée ce soir à 35% de la capacité de la salle, mais en même temps que la conférence, on organise une captation vidéo et une retransmission en direct sur notre page Facebook. Voilà, comme ça permet à plus de monde de nous suivre. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe technique d'FGBL Audiovisuel, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Pendant la conférence, nous aurons aussi une traduction illustrée des propos de M. Jancovici. Et là, j'en profite pour remercier Cécile Moline, qui est notre facilitatrice graphique et qui nous suivra toute la soirée. Enfin, à la fin de la présentation, on aura un temps d'échange et de débat. Alors, pour poser vos questions, on vous invite à nous envoyer des SMS au numéro de téléphone qui va peut-être s'afficher derrière moi, ou pas. Donc, je vais vous le donner parce que je l'ai sur ma note. Donc, c'est au 06 78 15 14 63. Voilà, ça nous évitera en fait de faire circuler le micro et ça permettra à celles et ceux qui sont en visio de se sentir aussi à l'aise que nous, présents dans la salle, pour poser leurs questions. Voilà, et enfin, un dernier mot pour remercier l'équipe du Cinéma Confluence, Hélène et Anaïs, de nous accueillir ce soir. Et puis aussi toutes les petites mains du pays qui ont contribué à l'organisation de la soirée. Donc Carole, Isabelle, Laurine, Julie et Olivier. Et Marguerite, qui n'est pas tout à fait de l'équipe, mais qui est là quand même. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous demande d'accueillir comme il se doit Jean-Marc Jancovici.
Moi, j'ai droit à un micro désinfecté, c'est parfait. Du coup, j'ai droit de l'infecter.
Voilà, je vais retirer ça.
Alors, avant de commencer cette intervention, maintenant que vous savez tout sur le marié carboniquement au premier regard entre Mélanie et moi, comme c'est elle qui m'a invité, j'ai mis souvigné, voilà, je suis désolé, les autres n'existent pas, c'est comme ça. La deuxième chose, avant de démarrer, c'est que j'espère que le titre un tout petit peu violent ne va pas vous rebuter, mais en fait, j'aurais aussi pu intituler cette intervention « Deux siècles d'histoire », parce que vous verrez qu'en fait, c'est à peu près la même chose. Et j'aurais également pu l'intituler « Le drame de l'élu », parce que vous allez comprendre à la fin de l'intervention que c'est justement de ça, entre autres, dont il est question. Alors, mais comme j'ai marqué physique, je vais aller jusqu'au bout du... Vous savez, il faut boire le calice jusqu'à la lie. Alors, je vais aller jusqu'au bout de la lie et je vais commencer avec une horrible équation. Alors, ce n'est pas une horrible équation, en fait, c'est un truc assez simple. Ce que je vais essayer de vous expliquer pendant les quelques quarts d'heure là, pendant lesquels je vais causer tout seul comme un grand avant les questions... C'est que quand on regarde l'histoire des deux derniers siècles, en fait, on peut assez facilement montrer qu'il y a eu autant d'économies qu'il y a eu d'énergie, et il y a eu autant de CO2, c'est-à-dire de futurs changements climatiques, qu'il y a eu d'énergie. Donc en gros, si vous regardez les deux derniers siècles, vous vous rendez compte qu'il y a trois choses qui ont évolué de concert. C'est la taille de l'économie, la quantité d'énergie qu'on utilise et les émissions de CO2. Tout ça est allé à peu près à la même vitesse et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de vous montrer qu'effectivement, je vous raconte pas de carabistouille quand je vous dis que l'économie et l'énergie sont allées à peu près à la même vitesse. Alors, voici une petite courbe que j'ai commencé à faire pour voir la tête que ça avait il y a une dizaine d'années, puis enfin une quinzaine d'années maintenant, depuis le temps que je dis 10 ans. Et quand j'ai vu la tête que ça avait, je me suis dit, tiens, il y a un truc, c'est vraiment très étonnant, je vais essayer de comprendre pourquoi. Alors, cette courbe, elle est très simple. Vous avez sur ce graphique, en abscisse, donc sur l'axe horizontal, la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde, peu importe l'unité. Et puis vous avez en ordonnée ce qu'on a coutume d'utiliser pour quantifier la taille de l'économie, c'est-à-dire le PIB. Vous savez, le fameux PIB, celui qui, quand il monte, tout va bien, quand il descend, tout va mal, et qui, en fait, quantifie la taille de l'économie. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers de cette notion, le PIB, c'est juste la valeur totale de tout ce qu'on a produit dans l'année. Voilà, c'est ça le PIB. Eh bien, vous voyez que la valeur totale de ce qu'on produit dans l'année évolue de manière parfaitement linéaire en fonction de la quantité d'énergie qu'on utilise. Donc, en gros, plus il y a d'énergie, plus il y a de PIB, plus il y a de PIB, plus il y a d'énergie. Ça vous dit toujours pas où est la poule et où est l'œuf. Mais ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, le premier terme de mon égalité est respecté. Plus il y a d'énergie, et c'est linéaire. Ça augmente exactement de la même manière. Voilà la deuxième courbe qui va avec la deuxième partie de mon égalité. Alors, je recommence. Même motif, même punition. En bas, là, cette fois-ci, vous avez la quantité totale d'énergie qu'on utilise dans le monde. Et sur l'axe vertical, vous avez la quantité totale de CO2 qu'on crache dans l'atmosphère à cause de l'utilisation de l'énergie. Et ben, vous voyez qu'on a affaire à une droite à nouveau parfaite. Donc, plus il y a d'énergie, plus il y a de CO2, plus il y a de CO2, plus il y a d'énergie. Si vous essayez de trouver dans cette courbe l'arrivée du nucléaire ou des énergies renouvelables, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Et ça reste parfaitement rectiligne. En bas à gauche, là, vous êtes en 1965. En haut à droite, vous êtes en 2019. Vous voyez, voilà. Autant d'énergie qu'il y a de CO2, autant de CO2 qu'il y a d'énergie. Alors maintenant que je vous ai montré que les trois termes de cette égalité se valaient vraiment, encore une fois, on va essayer de comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, on va ramener à la vie active un retraité. Il n'y a pas de raison, il n'a pas l'âge. Et on va essayer de commencer à répondre à la question qui est « Qu'est-ce que l'énergie ?» Vous savez que dans ce pays, il y a un ministre de l'énergie. Vous êtes au courant hein, qu'il y a un ministre de l'énergie. Eh bien, je vous fiche mon billet que si on lui pose la question de savoir ce que c'est que l'énergie, vous allez obtenir tout sauf la bonne réponse. Vous allez voir pourquoi. Alors, un premier réflexe très pavlovien qui nous vient à l'esprit quand on nous dit « énergie », c'est ça. Et du reste, on l'a très bien vu à cette époque-là. Vous voyez ça, très bien vu, l'énergie, c'est une facture, c'est pas un sujet. Et du reste, très souvent, quand vous avez des débats sur l'énergie, c'est des débats sur la facture d'électricité, combien ça va coûter, les débats sur la facture de gaz, combien ça va coûter. Alors malheureusement, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est pas la bonne question. Parce que quand on regarde ce que nous coûte l'énergie au regard des services que ça nous rend, en fait, la seule bonne réponse sur le coût de l'énergie, c'est que c'est gratuit. Voilà, c'est à peu près la seule bonne réponse sur le coût de l'énergie. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait gratuit, mais pas loin. Si je regarde ce que coûte aux hommes et aux femmes dans le monde, globalement, l'énergie que nous utilisons, donc le pétrole, le charbon, le gaz, l'électricité, vous allez voir que en fait, c'est très souvent du charbon et du gaz, eh bien, ça représente quelques pourcents de ce qu'on gagne, quelques pourcents du PIB, donc quelques pourcents de ce qu'on gagne chaque année. Donc le coût total, le fait d'acheter du pétrole, du gaz et du charbon dans le monde, ça coûte quelques pourcents de ce qu'on gagne. Et alors à ce moment, si c'est comme ça qu'on prend le problème, c'est-à-dire sous l'angle de combien ça coûte, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va y passer quelques pourcents du temps au mieux, parce qu'un problème qui coûte quelques pourcents de ce qu'on gagne, on ne va pas y passer la nuit. C'est quand même plus important de s'occuper de son loyer, et quand on dirige une entreprise, c'est plus important de s'occuper des salaires et des charges. Voilà. Alors malheureusement, ce que ce raisonnement ne vous dit pas, c'est combien tout le reste en dépend. Parce que vous voyez, votre cervelle, c'est 2% de votre poids. C'est juste 2% de votre poids. Donc je pourrais vous dire, bah, c'est pas grave, si vous la perdez, vous allez perdre 2% d'efficacité, c'est pas très très grave. Bon. En fait, vous comprenez bien que ce raisonnement est totalement idiot, parce que ça a beau être 2% de votre poids, tout le reste de votre corps en dépend. Si je vous enlève votre cervelle, plus rien du reste ne fonctionne. Et comme je vois que cette salle est à dominante masculine, je vais vous donner un autre exemple. Le poids de la testostérone dans les organismes masculins que j'ai en face de moi, c'est beaucoup moins que 2% de votre poids. Mais je peux vous assurer que si je vous l'enlève, votre corps ne ressemble plus à ce qu'il est. Donc la question de la part de camembert dans les dépenses, en fait, masque une information essentielle, c'est combien tout le reste de ce qu'on fait dépend de cette part-là. Alors je vais vous donner un exemple idiot, avec un engin de transport que je viens d'utiliser aujourd'hui qui s'appelle un train. Au sein de la SNCF, hors Covid, l'énergie, ça leur coûte à peu près 3% de leur chiffre d'affaires. Et il faut savoir que la SNCF est le premier consommateur d'électricité du pays. La SNCF, hors Covid, consomme 1,5% de la production électrique du pays. Et c'est également un des premiers consommateurs d'hydrocarbures, puisque beaucoup de TER fonctionnent au diesel. Donc vous avez également un gros poste achat d'hydrocarbures à la SNCF. Eh bien, tout ça, tout mouillé, c'est 3% de leur charge, sauf que si vous leur enlevez, vous n'avez plus un train qui avance. Donc, on comprend bien que c'est 3% des charges, mais tout le reste en dépend. Ce n'est pas 3% équivalent à autre chose, par exemple à des salaires de cheminots, parce que si vous enlevez 3% de charges sous forme de salaire de cheminots, la SNCF, se met en grève, mais enfin, derrière, il y aura quand même des trains qui finiront par rouler. Donc, l'énergie, encore une fois, si on regarde ce que ça vaut dans ce qu'on dépense, en fait, on rate un point essentiel, c'est combien tout le reste de ce qu'on fait dépend de cette part-là. Alors après, il y a une deuxième réponse, vous la connaissez, l'énergie, deuxième réflexe pavlovien, c'est « faut l'économiser ». Et du reste, vous connaissez tous cette petite maxime que je pourrais vous faire répéter tous en cœur. La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Du reste, si vous demandez à un moteur de recherche dont je n'aurai pas le nom, si vous tapez le début « la meilleure énergie », vous regardez ce qui arrive derrière, c'est celle qu'on ne consomme pas, voilà, etc. Alors, ou bien on est sourd, ou bien nous sommes particulièrement bêtes, parce que ça fait un siècle et demi que la meilleure énergie est celle qu'on consomme de plus en plus. Donc il y a probablement des gens qui n'ont pas bien écouté en cours dans cette histoire, parce que si c'est celle qu'on ne consomme pas, ce n'est pas du tout ça qu'on devrait observer. Ici, vous avez la quantité totale d'énergie qu'on utilise sur Terre depuis un siècle et demi. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que historiquement, tout en bas, là en vert, on a commencé par utiliser du bois. Puis on a aussi utilisé, j'y viendrai dans pas longtemps, les autres énergies renouvelables. Et puis par-dessus le bois, on s'est mis à utiliser du charbon. Mais par-dessus, vous voyez que ça ne remplace pas. Après, par-dessus, on s'est mis à utiliser du pétrole, mais ça ne remplace pas le charbon. Par-dessus le pétrole, on s'est mis à utiliser du gaz. Ça ne remplace rien de ce qu'il y avait avant. Par-dessus l'hydroélectricité, par-dessus le nucléaire. Et alors tout en haut en rose, là, ce que vous voyez, c'est les nouvelles énergies renouvelables. Donc c'est le machin dont on tartine les journaux à longueur de journée. Et regardez ce que ça représente aujourd'hui. Comme part dans l'approvisionnement énergétique mondial, vous voyez que pour le moment, c'est quelque chose qui a une importance qui n'est pas du tout en rapport avec la pagination que ça peut occuper dans le journal. Maintenant, vous êtes tous bien placés, puisque un certain nombre d'entre vous dans cette salle sont élus, pour savoir qu'en première approximation, il n'y a pas le moindre rapport entre l'importance réelle de quelque chose et la place que ça occupe dans le journal. Hein ? Et ce n'est pas vrai juste pour l'énergie, c'est vrai d'une manière générale. Eh bien, c'est aussi vrai pour l'énergie. Voilà. Ce que vous voyez également sur cette courbe, c'est que il y a un certain nombre d'évolutions. Alors, en fait, sur cette courbe, on peut placer plein de trucs dont on dit aujourd'hui « Ah, mais si on fait ça, ça va permettre d'utiliser moins d'énergie parce que c'est plus efficace. » Alors, je vous en livre quelques-uns pêle-mêle, mais j'aurais pu en prendre d'autres. On a souvent entendu, c'est plus efficace de rassembler les gens dans les villes parce que comme ça, c'est plus compact et alors les gens, du coup, se déplacent moins, etc. Eh bien, vous voyez l'essor des villes, le boom des villes dans le monde, ça commence après-guerre et vous voyez l'évolution de la consommation d'énergie derrière. Manifestement, ça n'a pas été si efficace que ça. Autre chose, l'économie se tertiarise. Il y a de plus en plus de services. Alors, s'il y a de plus en plus de services, c'est de moins en moins consommateurs d'énergie, etc. Alors, regardez l'évolution derrière. Ça doit se discuter que ça a permis de... Et enfin, dernier truc, c'est la digitalisation. Alors la digitalisation, c'est plus efficace, ça évite de se déplacer, etc. Mais regardez comment évolue la consommation d'énergie après qu'on ait commencé à avoir des ordinateurs. Manifestement, ça ne marche pas si facilement que ça. Et là-dessus, j'aurais pu vous mettre n'importe quoi d'autre. Hein. La conquête de la Lune, l'invention de la voiture, l'invention des trains, enfin, vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas la moindre invention technique dont on dit aujourd'hui qu'elle va permettre de régler le problème de la consommation croissante d'énergie, qui, historiquement, a joué ce rôle. Pas une fois, c'est arrivé. Et enfin, le point important, c'est que vous notez que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui sur Terre est ce qu'on appelle de l'énergie fossile. Alors, le dictionnaire est bien fait, ça s'appelle énergie fossile parce que c'est des fossiles. Le charbon, c'est des fossiles de fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère, il y a 300 millions d'années. Alors, ça a été très, très lentement cuit, beaucoup plus lentement que la quiche aux oignons dont je parlais tout à l'heure. Très, très lentement cuit pendant des centaines de millions d'années sous terre. Hein, les fougères des temps anciens se sont enfouies par la tectonique des plaques sous terre. Et puis, ça a été très, très lentement chauffé par la chaleur géothermique et ça a fini par donner du charbon. Et le pétrole et le gaz, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu de prendre des fougères au début, vous prenez du plancton et des petites algues qui ont vécu dans l'océan. Même motif, même punition, une partie tombe sur le plancher océanique, c'est enfoui par la tectonique des plaques, ça cuit beaucoup plus longtemps qu'une daube, quelques dizaines de millions d'années au moins. Et à l'arrivée, vous avez du pétrole et du gaz. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des énergies fossiles, c'est vraiment parce que c'est des fossiles. Je fais une toute petite parenthèse, on appelle parfois l'uranium énergie fossile, c'est faux. C'est un métal, c'est en quantité finie, mais c'est pas un fossile, c'est pas un reste de vie ancienne. Ce que vous voyez donc sur ce graphique, c'est que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise sur Terre aujourd'hui, c'est des combustibles fossiles. Et c'est vrai également si vous regardez un vecteur que nous utilisons tous les jours, le vecteur magique de Christian Clavier, vous savez, jour-nuit, qui s'appelle l'électricité. Vous avez ici la manière dont on produit l'électricité sur Terre depuis 1985. Alors, en 1985, on est donc tout à gauche sur ce graphique. Là, j'arrive pas à manipuler la souris. Bon, bah, tant pis, pas de souris. Ah si, voilà. Vous voyez ici, on est en 1985 et l'humanité produit 10 000 milliards de kilowattheures électriques. 10 000 milliards. 1 000 milliards, on appelle ça un térawattheure. Dans le 1 milliard de kilowattheures, ça s'appelle un térawattheure. Donc 10 000. Et puis vous voyez, ça augmente. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Aujourd'hui, on est passé au-dessus de 25 000 milliards de kilowattheures électriques produits. Alors, dans cette histoire, qu'est-ce qui a augmenté ? Bah, le charbon a augmenté. Et vous voyez que, en fait, en valeur absolue, sur la période, c'est de très loin le mode de production électrique qui a le plus augmenté. Et même si je regarde les 20 dernières années, de très loin, ce qui a le plus augmenté sur Terre, c'est la production électrique au charbon. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'électricité avec du charbon ? C'est assez simple. Avec le charbon, vous faites de la chaleur. Avec la chaleur, vous faites bouillir de l'eau. Ça vous crée de la vapeur. Et avec la vapeur, vous faites tourner une turbine. C'est exactement le même principe dans une centrale à gaz, c'est exactement le même principe dans une centrale à pétrole et c'est exactement le même principe dans une centrale nucléaire. À chaque fois, vous faites de la chaleur, c'est juste la manière de faire la chaleur qui n'est pas la même, puis vous faites de la vapeur, puis vous faites tourner une turbine. Donc vous voyez que le charbon a beaucoup augmenté, le gaz a considérablement augmenté aussi. Alors le gaz, c'est une énergie fossile hein, aussi. Il reste un peu de pétrole. Là, vous voyez le nucléaire, là, l'hydroélectricité et là, les nouvelles énergies renouvelables. Alors, ce que vous voyez, c'est que dans la production électrique dans le monde, les deux modes décarbonés qui dominent, c'est l'hydroélectricité et le nucléaire. Arrivent ensuite l'éolien, le biogaz et le solaire qui sont à peu près à parité. Donc le solaire, c'est le petit machin orange que vous avez là. Donc l'essentiel de l'électricité sur Terre aujourd'hui, les deux tiers pour être précis, c'est des énergies fossiles. Donc l'électricité, c'est pas du tout un vecteur décarboné. Suffit pas de dire je fais de l'électricité et parce que là où je m'en sers, il n'y a pas de fumée et ça pue pas, du coup c'est propre. Il faut aussi regarder ce qui se passe là où on la produit. Et en fait, l'électricité est aussi propre ou aussi sale que la manière de la produire. D'accord ? Elle a les mêmes inconvénients que la façon de la produire. Alors la France est très atypique par rapport au monde dans son ensemble parce que vous avez ici le même graphique pour la France. Alors, ce que vous voyez pour la France, c'est que la petite bande jaune là, que vous aviez ici, là, qui est le nucléaire, c'est devenu un gros, gros paquet jaune en France. Donc, en France, l'essentiel de notre électricité est produit avec du nucléaire, que vous voyez ici en jaune. Il y a une quantité hydroélectrique qui est à peu près constante sur la période, parce que les grands barrages ont été faits dans les années 70, 70, pardon. Je trouve que les Belges sont plus logiques que nous sur la numérotation. Et depuis, on n'en fait plus. Et la micro-hydraulique, pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler, ben le dictionnaire est de nouveau bien fait, c'est micro. Donc ça fait des toutes petites quantités d'électricité. Les grandes quantités d'électricité sont faites par les grands barrages que vous allez trouver dans les massifs montagneux. Et ce que vous voyez, c'est que depuis 2005, en fait, on a un peu baissé le nucléaire, un peu augmenté la quantité d'électricité faite autrement qu'avec le nucléaire. Par contre, la quantité d'électricité qu'on fait avec des combustibles fossiles sur la période n'a pas énormément varié. Alors, elle descend un peu, elle monte un peu. Et en fait, c'est bien là qu'est le problème en ce qui concerne le climat. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là encore que dans le solaire, il y a quand même 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc parce qu'il faut faire le panneau. Donc la partie fossile dans la production électrique française, et c'est celle-là qui est l'objet de nos attentions si on s'occupe du climat, vous voyez ce qu'elle représente. Elle représente la partie du bas. L'essentiel de la production électrique française, donc à l'inverse de la production électrique mondiale, elle est déjà décarbonée. Elle est décarbonée depuis la mise en route du programme nucléaire, qui n'a pas du tout été fait pour ça, il n'a pas du tout été fait pour protéger le climat, mais il se trouve que c'est un avantage acquis que nous avons avec. Donc, j'en reviens à mon pré-retraité. Une facture, ce n'est pas vraiment la bonne manière de voir la chose. L'économiser, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Alors maintenant, tout le monde va être renouvelable. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, ça ne pose aucun problème. Si, ça ne pose aucun problème. Regardez, voilà, un monde 100% renouvelable. Ça ne pose aucun problème. Du reste, ça pose tellement aucun problème que le monde dans lequel les hommes et les femmes ont vécu depuis leur apparition, il y a 20 000 ans pour Sapiens Sapiens, jusqu'à il y a 2 siècles, a été en permanence un monde 100% renouvelable. En permanence. Donc des points d'échantillonnage pour un monde 100% renouvelable, je vous en donne autant que vous voulez. Autant que vous voulez, faire un monde 100% renouvelable ne pose aucun problème. Aucun. Bon. Mais on n'a pas dû trouver ça si génial que ça, puisque ça fait 2 siècles qu'on passe notre temps à sortir des énergies renouvelables. Vous voyez, on avait une marine renouvelable. Voilà un bateau renouvelable, en bois renouvelable, avec des voiles en lin ou en coton renouvelable, des marins renouvelables, et renouvelés quand ils mouraient du scorbut, et naviguant paisiblement sur la mer renouvelable. Bon, et puis on a dit, c'est pas terrible, c'est quand même vachement mieux d'avoir ce genre de truc. Bon. Voilà un transport terrestre parfaitement renouvelable, avec un cheval renouvelable, et qui du reste était renouvelé dans nos estomacs, il y avait des boucheries chevalines, mangeant de l'herbe renouvelable, tirant une charrette en bois renouvelable, tout ça est parfaitement renouvelable, puis on a dit, oh, c'est pas terrible quand même, il vaut beaucoup mieux avoir ça, ça a l'air de mieux marcher. Nous avions des tracteurs renouvelables, en voici un, voilà, ils étaient comestibles, à la différence des tracteurs actuels, un peu moins, mangeant de l'herbe renouvelable, etc. Puis on a dit, ça c'est pas terrible, on va quand même faire ça. On avait des travaux publics renouvelables, donc on faisait la Via Appia, les voies romaines, etc., à la mano, avec des gens qui mangeaient de l'herbe, enfin pas de l'herbe, non, ils mangeaient un peu mieux que ça, souvent, même les esclaves. Puis on a dit, non, c'est quand même vachement mieux de faire ça, ça permet de faire les lotissements beaucoup plus vite, n'est-ce pas ? Ça permet de faire les lotissements beaucoup plus vite. On avait une industrie de la construction parfaitement renouvelable, alors avec des ouvriers renouvelables qui mangeaient là aussi de la nourriture renouvelable. 2 siècles pour faire Notre-Dame en première version, en deuxième, Macron a dit que ça irait plus vite. Et on s'est dit quand même, pour faire des grands cornichons à la défense, ça va beaucoup plus vite d'avoir une construction fossile, et donc on est passé au fossile. On avait une industrie, c'est pas une deuxième manière de failloter avec Mélanie, on avait une industrie parfaitement renouvelable, avec ici vous avez une roue de moulin en bois renouvelable, tournant avec de l'eau renouvelable, etc. Puis on s'est dit, non quand même, pour alimenter Toys R Us, ça marche mieux ça, donc on va faire ça. On avait même des séchoirs à luzerne renouvelables, ça s'appelle le soleil. Aujourd'hui, nous avons des séchoirs à luzerne à gaz. Beaucoup plus efficace. Et enfin, nous avions une aviation renouvelable. Vous voyez ici le premier aéronef des frères Montgolfier avec du papier. Le papier, c'est du bois, hein. Parfaitement renouvelable, sur montant grâce à la chaleur d'un feu de bois, parfaitement renouvelable. Puis on s'est dit, non, quand même, ça, c'est plus efficace. Bon, bref. Donc, ça fait 2 siècles, en fait, qu'on passe notre temps à sortir des énergies renouvelables. Pas à y aller, à en sortir. Alors, je repose la question, ou on est des crétins patentés, ou bien il y a une raison physique pour laquelle on a fait ça. Et alors, la mauvaise, très mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, il y a des raisons physiques. Imaginons qu'on prenne le volume de cette salle dans laquelle je suis, soit dit en passant, très heureux d'être parce que depuis le Covid, c'est la première fois que je me retrouve dans une salle. Donc, ça faisait un an que j'avais même pas mon mode présentateur parce que quand on fait des visions, on l'a pas. Et donc, j'étais très, très malheureux. Donc, imaginons qu'on prenne le volume d'air de cette salle. En première approximation, je vais dire que c'est un cube de 10 mètres sur 10 mètres. Alors, en fait, ouais, c'est à peu près ça, le volume d'air de cette salle. Je le fais souffler à 80 km/h. Donc, vous n'êtes pas dans le pays du Sud, c'est pas du tout un reproche. Donc, le Mistral et la Tramontane, c'est pas trop votre truc. Mais vous voyez, 80 km/h, ça commence à être un vent sympathique, quoi. Hein. Et vous le faites passer dans une éolienne. Vous allez donc récupérer de l'énergie. Vous allez mettre l'éolienne en mouvement et récupérer de l'énergie. Eh bien, 1000 mètres cubes d'air en mouvement passant dans une éolienne, ça vous fournit la même quantité d'énergie que ce que vous avez dans 3 millilitres de pétrole. Ça, là. Ça. Vous avez bien vu ? Ça. Alors, je vous pose la question. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus simple ? D'avoir 3 millilitres de pétrole ou d'avoir une éolienne de 150 mètres de haut et d'y faire souffler 1000 mètres cubes d'air ? À votre avis ? Bon. Sans compter qu'avec mon éolienne, votre voiture avance, si elle avance à l'électricité, quand il y a du vent. Enfin non, il y a une batterie, c'est un mauvais exemple. Mais enfin, vous comprenez, l'énergie est disponible quand il y a du vent. Alors qu'avec le pétrole, votre stock, il est déjà là. Votre pétrole, il est disponible, qu'il y ait du vent, pas de vent, qu'il y ait du soleil, pas de soleil, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, pff, disponible. Et en fait, la raison pour laquelle on est passé du vent au pétrole, elle est là. C'est à cause des caractéristiques physiques intrinsèques de chaque forme d'énergie et qui fait que les énergies fossiles, c'est considérablement plus dense, beaucoup plus facile à transporter, à utiliser indépendamment des conditions locales. Et donc, ça a permis de mettre en route tout un tas de machines qu'on n'aurait jamais pu mettre en route avec juste les énergies renouvelables. C'est pour ça qu'on a fait cette transition des énergies renouvelables vers les énergies fossiles. À l'époque, on ne s'est pas dit, ça va emmerder nos descendants, faire du changement climatique, puis un jour, il n'y en aura plus. Vous savez, les gens, moi inclus, un siècle, c'est loin. Hein. Donc, on l'a fait, puis on l'a fait, mais à cause de ça. Hein. Et alors, quand on regarde aujourd'hui la traduction économique de cette différence de caractéristiques physiques, quand vous avez un kilowattheure éolien en France, bon, j'ai pris en France, ça se balade quelque part entre 4 et 8 centimes. Alors, l'offshore va vous en coûter 15. Les très bons gisements à terre aujourd'hui, c'est peut-être 4. Enfin, peu importe. On est dans ces eaux-là, hein, 6-8 centimes, un peu plus, un peu moins. Et, mais ça, c'est vous vous faites opérer du genou s'il y a du vent. Ou la classe démarre à 8 heures s'il y a du vent. Si vous voulez que la classe démarre à 8 heures, même s'il n'y a pas de vent, il faut rajouter du stockage. Vous êtes d'accord ? Pour ajouter du stockage. Et donc, à ce moment, le coût du stockage, vous multipliez par 3, en gros, hein, tout compris. Donc, on se balade avec un kilowattheure éolien, avec quelque chose qui va vous coûter plusieurs dizaines de centimes, au moins 20 à 30. De l'autre côté, votre kilowattheure de pétrole, je dis bien votre kilowattheure de pétrole, sorti du désert saoudien, déjà stocké, donc déjà vous vous en servez comme vous voulez, il vous coûte une fraction de centime. Donc, vous avez un facteur de différence de quelques dizaines entre l'éolien et le pétrole. Et ça reflète les caractéristiques physiques intrinsèques de chacune des énergies. Et encore, ce facteur devrait être beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, votre éolienne moderne, elle est fabriquée avec des combustibles fossiles. Elle est fabriquée avec du charbon pour faire la métallurgie, pour faire l'acier. Elle est fabriquée avec du pétrole pour transporter et ériger tous les composants et puis par ailleurs pour faire les pales en fibre de verre, etc. Enfin, en fibre de carbone. Et avec du gaz pour faire le ciment qui va servir à faire le plot de béton. Si demain matin, vous n'avez plus tout ça parce qu'on est dans un monde 100% renouvelable, est-ce que vous pensez que le prix de votre éolienne va rester le même ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Hein. Comme je dis parfois, je ne suis pas sûr que je parierais toutes mes économies là-dessus. Bon. En fait, non. C'est absolument certain qu'il ne restera pas là. Donc, en fait, aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables n'est pas élevé parce que nous avons toujours un système fossile. Mais si on veut se débarrasser du système fossile... Voilà. Et en fait, ça va être ça le drame sur lequel je vais continuer d'élaborer ce soir. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, j'en suis même sûr, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, il y a 4 siècles, il y a 5 siècles, il y a 6 siècles, qui étaient beaucoup plus intelligents que nous tous réunis dans cette salle. Je pense que Mozart, qui a composé des symphonies à 4 ans ou 5 ans, était juste un génie absolu, donc je ne suis pas sûr qu'il ait des équivalents depuis. Je pense que Léonard de Vinci et Archimède étaient aussi des génies absolus, etc. Donc si ces gens-là, qui étaient aussi intelligents que nous, n'ont pas réussi à faire émerger une civilisation industrielle à l'époque des énergies renouvelables. Peut-être que la raison, c'est que juste, ils ne pouvaient pas. Parce que les énergies renouvelables n'ont pas les caractéristiques physiques intrinsèques qui permettent de faire vivre 8 milliards de terriens comme un smicard français. C'est peut-être juste ça, le sujet. Et en fait, c'est à là que je voulais vous amener. Donc là, vous avez trois réponses qui, moi, ne me satisfont pas. Au sens de, ce n'est pas le réflexe pavlovien qu'il faut avoir quand on pense énergie. En fait, le réflexe pavlovien qu'il faut avoir quand on pense énergie, c'est Iron Man. Voilà, c'est ça le réflexe pavlovien qu'il faut que vous ayez. L'énergie, c'est Iron Man. Il débloque complètement et voilà, il a trop bu de vin à l'apéro. Non, j'en ai pas bu du tout. Non, pas du tout. Effectivement, l'énergie, c'est Iron Man. Ou plus exactement, l'énergie, c'est la bibine d'Iron Man. C'est ça, l'énergie. C'est la bibine d'Iron Man. Alors, c'est quoi Iron Man des temps modernes ? Évidemment, vous n'avez pas chez vous l'armure d'Iron Man, version rouge pour les hommes, rouge pour les filles, bleu pour les hommes. Non, non, c'est pas ça que vous avez chez vous. Mais vous l'avez quand même. Voilà à quoi elle ressemble, l'armure d'Iron Man. Et celle-là, vous l'avez vraiment chez vous. Le petit doigt gauche d'Iron Man, c'est le tractopelle que vous avez là. La main droite d'Iron Man, c'est le train que vous avez là. La bouche d'Iron Man, c'est la machine de filtration que vous avez là. La mâchoire d'Iron Man, c'est la presse à emboutir que vous avez là, etc. En fait, Iron Man, il est vraiment parmi nous, sauf qu'il est parmi nous en pièces détachées, en petits morceaux. Et c'est l'ensemble de la machinerie mondiale qui s'est mise à travailler pour nous. Les vêtements que vous portez, puisqu'il est interdit de venir tout nu dans cette salle, ont été fabriqués par des machines. Ils ont été transportés par des machines. Vous les avez achetés dans des magasins qui ont été construits par des machines. Ou si vous les avez achetés en ligne, vous les avez achetés avec une machine qui est un ordinateur. Ils sont passés par un entrepôt construit par des machines, acheminés chez vous par des camions qui sont des machines. Ce que vous avez mangé au petit déjeuner a été cultivé par des machines, des tracteurs et des moissonneuses-batteuses, transformé, réfrigéré, transporté par des machines, cuit éventuellement par des machines. Nous vivons dans un monde de machines. Et ceux qui bossent, c'est les machines. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui ont fabriqué les fauteuils sur lesquels vous êtes assis. C'est des machines. C'est pas... Qui est venu à pied ici ce soir ? Ben voilà, tous les autres sont venus avec des machines. Hop ! 60 chevaux attelés devant le carrosse instantanément. Donc nous vivons... Ça, c'est pour les petites voitures. Nous vivons donc dans un monde de machines. C'est ça. Et donc, l'énergie, c'est la nourriture de ces machines. Donc, en fait, plus on a d'énergie, plus on consomme d'énergie, en fait, ça veut dire plus on utilise de machines. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce n'est pas vous qui buvez le pétrole. Enfin, en tout cas, je vous le déconseille, ce n'est pas terrible. Si vous essayez de vous mettre le truc de la pompe à essence dans la bouche, là, vous ferez l'expérience un jour. Je pense que vous allez trouver ça moins bon qu'un petit vin. Donc, même pas terrible. Donc, l'énergie, c'est de la nourriture pour machines. Et en fait, dire qu'on utilise de plus en plus d'énergie, en fait, ça veut juste dire qu'on utilise de plus en plus de machines. Qu'on a une capacité à maîtriser notre environnement et à le transformer qui augmente. C'est ça que ça veut dire. C'est juste ça que ça veut dire. Alors, on va prendre quelques exemples de machines pour que vous compreniez un peu de quoi on parle maintenant. D'abord, la première machine que je vais prendre, c'est vous. Nous sommes, surtout les hommes, des machines. C'est-à-dire que nous sommes des convertisseurs d'énergie, on mange beaucoup trop, parfois on boit beaucoup trop aussi, et derrière on va en faire de la chaleur, beaucoup, parce qu'on est des animaux à sang chaud, il faut qu'on se maintienne à 37 degrés, et du mouvement un peu, sauf quand on est avachi devant son poste de télé. Alors si on fait beaucoup de mouvements, on se rendra compte que la puissance moyenne d'un organisme humain qui est en train de travailler se balade quelque part entre 10 et 100 watts. C'est ça qu'on va constater. Alors, 100 watts, c'est par exemple quelqu'un qui fait l'ascension Chamonix-Mont-Blanc dans la journée. Le haut du Mont-Blanc. Hein. Voilà. Même si le Mont-Blanc n'est pas chez vous, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Et pour les Parisiens, même qui n'aiment pas ça, comme Mélanie, ça veut dire que vous montez, que je ne dise pas de conneries, 13 fois dans la journée en haut de la Tour Eiffel. À pied, hein. Je précise. J'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça. 13 fois, vous faites 13 fois l'aller-retour Parvis, Tour Eiffel, à pied. Hein. Et ben ça, c'est une puissance moyenne de 100 watts que vos jambes développent dans la journée. Oui, ça vous donne une petite idée. Bon. Et si vous faites un très grand trou pour de très, très gros géraniums et que vous décaissez 15 tonnes de terre dans la journée, là, c'est 10 watts de puissance moyenne pour vos bras et les muscles du dos et les ampoules. Donc, vous voyez, un être humain au travail, c'est entre 10 et 100 watts. Alors maintenant, je vais prendre un mixeur à soupe. Vous voyez ce que c'est un mixeur à soupe ? Qui a déjà mixé de la soupe ici ? Il y a des mains qui ne se lèvent pas. Non, il y a des gens qui n'ont jamais mixé de soupe ici ? Ou ils n'écoutent pas ? Non, quand même, bon, ça va. Ça y est, le truc qui fait bzit là. À votre avis, quand vous appuyez sur le bouton, il faudrait combien de personnes qui pédalent pour mixer la soupe avec la même puissance ? 20, vous avez un mixeur en or, en argent massif. Ouais, 3, 4. C'est quand même beaucoup, hein ? C'est quand même beaucoup. Ça veut dire que quand vous appuyez sur le bouton de ce ridicule machin tout petit là qui fait bzit, en fait, vous avez la même puissance qui se libère que si vous aviez instantanément 4 domestiques qui arrivaient et qui pédalaient pour vous. Mais juste, ce n'est pas le même prix. Hein. Non, les enfants, c'est moins. C'est pas le même prix. Alors maintenant, après être passé à table, vous avez mis des miettes partout et vous passez l'aspirateur. Alors, au moment où vous passez l'aspirateur, il y a combien de personnes qui pédalent pour vous ? 3000 watts, non, ça c'est un aspirateur industriel, ça. Entre 6 et 10. Un aspirateur, maintenant, c'est 600 watts, 1000 watts, entre 6 et 10. Un bouton d'ascenseur. Combien de personnes qui pédalent dans la cave pour faire monter l'ascenseur ? Pas mal. Alors, c'est pas 100, mais c'est 50. Ça fait 5 kilowatts, un moteur d'ascenseur. Hein. 50 personnes qui se mettent à pédaler dans la cave quand vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur. Ça en impose, hein ? Bon. Alors maintenant, un engin que vous croisez probablement de temps en temps par chez vous, c'est à Paris, c'est un peu plus rare, un tracteur. Eh bien, quand le conducteur du tracteur monte dans la cabine de pilotage du tracteur, et ça, c'est un petit tracteur, hein, parce qu'un tracteur de gros céréalier, c'est plus puissant que ça, eh bien, vous avez des centaines de paires de jambes qui se mettent à pédaler pour lui instantanément. Et si je prenais non pas des jambes, mais des chevaux, eh bien, un tracteur de 60 kW, un petit tracteur, c'est 90 chevaux attelés qui se mettent à tirer tout d'un coup. 90. Juste un petit tracteur comme ça. Maintenant, on va prendre un engin de chantier, indispensable pour que l'élu puisse bétonner. Non, pardon, j'ai rien dit. Qui développe donc une centaine de kilowatts de puissance. Eh bien, vous voyez, là, c'est comme si vous mettiez instantanément la totalité de la population de Sablé au travail avec des pelles et des pioches. Un seul engin. Un seul engin. C'est grâce à ça qu'on peut terrasser un terrain en quelques heures, alors que dans les temps anciens, avec juste des pelles et des pioches, ça prenait des semaines. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on peut aujourd'hui se faire construire un logement pour quelques années de salaire, chose qui était juste impensable il y a 2 siècles. C'était juste totalement impensable il y a 2 siècles. Et du reste, l'étalement urbain, il y a 2 siècles, ce n'était pas vraiment un problème. Et la raison pour laquelle c'est devenu accessible à toutes les bourses, l'étalement urbain, c'est notamment ça. Voilà le camion dont je vous parlais tout à l'heure. Alors le camion, lui, il pédale comme quelques milliers de fois les jambes de son conducteur. Quelques milliers de fois les jambes de son conducteur. Donc pour assurer l'approvisionnement alimentaire, par exemple, des villes du pays, eh bien, à chaque fois que vous voyez un camion, imaginez que vous le remplaciez par un attelage de quelques milliers de personnes en train de pédaler. C'est ça la réalité physique de la puissance qui est capable de développer un camion. Et alors là, tout ça, c'est ridicule. Maintenant, on va parler de trucs un peu plus sérieux. Un avion, cette fois-ci, c'est 1 million de fois les jambes du pilote. Alors, le pilote, pourtant, il est en forme, il est bronzé, il est jeune, etc. 1 million de fois les jambes du pilote. Et si vous prenez un laminoir, un laminoir, lui, il est capable d'écraser la tôle avec la même puissance musculaire que 1/6 de la population française. 1/6 de la population française. On a 2 ou 3 laminoirs en France. On en a au moins à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a une personne dans la cabine de pilotage du laminoir. D'accord ? Une personne. C'est des installations qui tournent 24h/24, mais une personne. Alors évidemment, il y a plein de gens autour, la maintenance, machin, etc. Une personne dans la cabine. Donc lui, quand il rentre dans la cabine de pilotage de son laminoir, c'est vraiment Iron Man, à tous les sens du terme, du reste, parce que c'est Iron. Dans le... c'est vraiment ça. D'accord ? Donc pour remplacer les 2 laminoirs français, si je ne les avais pas, j'aurais besoin de la quasi-totalité de la population active française, c'est-à-dire 20 millions de personnes, rien que pour taper sur des tôles toute la journée. Bon. Tous, autant que vous êtes, vous avez utilisé cet esclave énergétique-là. Vous avez des montures de lunettes en acier, des boutons de culotte en acier, sauf dans la guerre des boutons, vous avez des fourchettes chez vous, des cuillères, des couteaux, vous êtes venu en voiture, tout ça c'est de l'acier. Donc tous, autant que vous êtes, moi aussi, hein, on a utilisé ces esclaves mécaniques des temps modernes. Alors si je fais un petit calcul d'ordre de grandeur avec toutes ces puissances faramineuses de toutes ces machines qui ne travaillent pas nécessairement toutes en même temps, mais que nous avons maintenant à notre disposition, eh bien on se rend compte que ces machines, avec leur croquette pour machine particulière, c'est-à-dire l'énergie, elles sont capables de développer en moyenne sur l'année 200 fois la puissance musculaire de l'humanité. Alors maintenant, je vais vous le dire autrement. Si nous n'avions pas les machines, votre pouvoir d'achat serait divisé instantanément par 200. Salaud ! Instantanément par 200. Enfin, le vôtre, le mien. Instantanément. Ce qui fait aujourd'hui la production économique, c'est plus du tout les gens. Du reste, des gens, il y en a trop. C'est pour ça qu'il y a du chômage partout. C'est les machines. Le premier facteur limitant de la production aujourd'hui, c'est la quantité de machines au travail. Et la quantité de machines au travail, c'est l'énergie. C'est pour ça que, j'y reviendrai, c'est pour ça que c'est l'énergie qui pilote l'économie. En France, le facteur multiplicatif n'est pas de 200, il est plutôt de 600. Alors, je vais vous le dire autrement. Ça veut dire qu'un Français ordinaire, moyen, qui n'existe pas, comme chacun sait, il vit de la même manière. S'il n'y avait pas de machines, il lui faudrait 600 esclaves H24 pour qu'il vive de la même manière. Donc, l'énergie... C'est le XXe siècle. Ce n'est pas un morceau, un truc qui s'est passé. Non, l'énergie, c'est le XXe siècle. Sans énergie, nous ne serions pas dans cette salle. On serait éreintés après une journée de labeur à ramasser des patates. Voilà où on serait en ce moment. C'est l'énergie, c'est le XXe siècle. Alors évidemment, ce que je vous dis, ça déforme un tout petit peu la manière qu'on doit avoir de regarder l'économie. L'économie que vous avez apprise à l'école et moi aussi, du reste, est celle dont on vous parle dans les débats politiques, auxquels vous participez peut-être de temps en temps. Elle dit les choses de la manière suivante. Vous avez un système productif, celui qui produit les fameuses richesses. Alors ce système productif, il a deux facteurs de production, les gens qui travaillent et le capital. Et si vous avez du capital, grand et méchant, comme chacun sait, et des gens qui travaillent, à ce moment, vous avez une production et le supermarché est rempli. Hein, c'est ça l'économie que vous avez apprise à l'école et c'est ça l'économie que j'ai apprise à l'école. Donc, si la production n'est pas assez forte, qu'est-ce qu'on fait? On botte le cul des gens qui ne travaillent pas en leur disant « travail, feignant », et on dit aux banquiers « arrête de faire n'importe quoi, investis dans l'économie réelle ». Alors, en fait, ces deux choses-là, on essaye de les faire depuis 2008. Et comme vous pouvez le constater, ça ne suffit pas à faire repartir la production économique de manière significative, indépendamment du Covid. C'est donc probablement que le système n'est pas aussi simple que ça. Alors en fait, si vous demandez à une personne, j'allais dire à l'ingénieur, même pas à une personne de simple bon sens, de regarder physiquement le truc, il va vous dire, mais attends, pour avoir tout ce qui compose ces objets-là, là, il a bien fallu les prendre quelque part. Un verre, ça ne se crée pas d'un coup de baguette magique. Il faut bien les matières pour faire le verre. Un fauteuil, ça ne se crée pas d'un coup de baguette magique, enfin sauf chez Harry Potter. Mais sinon, il faut bien les matières, etc. Donc, il va me falloir, quelque part sur Terre, la matière que je vais pouvoir transformer en objet. C'est ce qu'on appelle les ressources naturelles. Et puis, il me faut, quelque part sur Terre aussi, la capacité à transformer ces ressources. Et c'est ça que je vais appeler du travail. Le travail, c'est la transformation de ce que je fais autour de moi. Et en fait, cette transformation, avec ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez qu'il y en a une toute petite partie qu'on fait nous. Et l'essentiel est fait par les machines et leurs croquettes pour machines. Alors, une fois que je vous ai montré ça, vous comprenez qu'il y a d'autres facteurs limitants dans l'économie, et en particulier s'il y a un moment où on manque d'énergie, que ce soit pour des raisons climatiques, c'est-à-dire on s'impose d'avoir moins d'énergie, ou que ce soit pour des raisons géologiques, a pu, on fait un trou, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus. Eh bien, à ce moment, vous aurez moins de production. Alors, en fait, les deux sont valables, et ce qui a déjà commencé à se passer à petite vitesse en Europe, c'est le a pu, quand on fait un trou dans le sol, mais j'y viendrai tout à fait à la fin de ma présentation. Et puis, autre facteur limitant qui peut s'appliquer, il n'y a plus de ressources. Et à ce moment, il n'y a plus de transformation. Si vous n'avez plus de pétrole, vous ne faites plus de plastique. Et à ce moment, vous ne faites plus de fauteuils en plastique et en fibres synthétiques. Dès que vous avez des fibres synthétiques quelque part, c'est un dérivé du pétrole. Donc, nylon, désolé mesdames, c'est du pétrole. Polyester, polyuréthane, enfin tous les poly machin chouette, là, ça c'est du pétrole. Donc du pétrole, il y en a absolument partout en matière première également, hein, pas seulement en énergie. Et donc là, ça vous explique pourquoi. Je vous ai montré cette courbe-là tout à l'heure. Vous voyez, le premier déterminant dans ce graphique, c'est la quantité d'énergie dont on dispose. C'est ça le premier facteur limitant. Plus il y en a, plus on a de machines au travail, plus on transforme de ressources, plus on fait de production, plus le PIB augmente. C'est exactement ça que je vous ai montré là. Et au lieu de lire énergie en bas, il faut lire quantité de machines qui travaillent. En fait, dès que vous voyez énergie, à partir de maintenant, pensez machine au travail. C'est ça l'énergie, c'est une machine au travail. Alors, comme cette énergie est fossile, elle a également une conséquence, c'est qu'elle nous a conduit à augmenter très fortement les émissions dites de gaz à effet de serre. Alors, un gaz à effet de serre, à nouveau, je vais vous assommer avec un peu de physique, mais malheureusement, il faut le comprendre. Voilà. Un gaz à effet de serre, ça a une définition physique très précise. C'est un gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge émis par la surface de la planète. Vous savez que tous les corps émettent du rayonnement. Le soleil émet du rayonnement visible, c'est pour ça qu'on le voit, le reste. Il émet également du rayonnement ultraviolet, au-delà du visible, hein, avec des rayonnements qui sont plus énergétiques, longueur d'onde plus courte. Il émet également de l'infrarouge, mais de l'infrarouge à courte longueur d'onde, celui qui fait qu'on sent la chaleur. Et la Terre, qui n'est pas du tout à la température du Soleil, du reste heureusement pour nous, parce que 6000 degrés, il ferait un peu chaud, elle émet aussi du rayonnement, mais du rayonnement moins énergétique, parce qu'elle est moins chaude, et qu'on appelle de l'infrarouge lointain. C'est ça que émet la Terre. Eh bien, le rayonnement de la Terre, il est intercepté dans l'atmosphère par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. C'est ça leur définition. Un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui est capable d'absorber, qui est opaque aux infrarouges terrestre. Exactement comme le dossier de votre fauteuil est opaque à la lumière. Voilà, c'est le même processus. Vous envoyez du rayonnement lumineux dessus, il est absorbé, il ne passe pas à travers. Eh bien, les gaz à effet de serre, vous envoyez du rayonnement infrarouge émis par la Terre dedans et ça ne passe pas à travers, enfin, ça passe mal à travers, il est absorbé. Et donc, plus je mets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus le rayonnement émis par la planète a du mal à s'échapper vers l'espace et plus ça chauffe, il y a de l'énergie qui est confinée près de la surface. Alors, ça chauffe, mais pas que. Il y a des tas d'autres déséquilibres qui apparaissent. Ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité depuis un siècle et demi. Alors là, vous avez le CO2 qui augmente essentiellement à cause de l'usage de l'énergie fossile croissant, mais aussi à cause de la déforestation. La déforestation est une des causes d'émissions de CO2. Et au-dessus, vous avez un gaz qui s'appelle le méthane, qui a d'autres origines, notamment agricoles. Alors, vous pouvez aussi sur cette courbe, je ne l'ai pas mis sur l'énergie, mais voilà, mettre d'autres trucs qui sont censés nous décarboner. Vous voyez, par exemple, l'électricité, ça fait plus d'un siècle qu'on s'en sert, ça n'a pas empêché les émissions d'augmenter. L'informatique, ça fait longtemps qu'on s'en sert, ça n'a pas empêché les émissions d'augmenter. Pareil en ce qui concerne les trains, pareil en ce qui concerne Internet, et pareil en ce qui... Enfin voilà, bon, après, ça continue d'augmenter. Alors, il y a une très mauvaise nouvelle en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et en particulier les émissions de CO2. C'est que le CO2, il est éternel une fois qu'on l'a mis dans l'air. Le CO2 est un oxyde. Vous savez, dioxyde de carbone, c'est ça que maintenant on dit à vos bambins d'apprendre à l'école. On leur interdit de dire gaz carbonique, c'est défendu. Ils se font taper sur les doigts avec une règle. Maintenant, on dit dioxyde de carbone. Alors, les oxydes sur Terre sont des formes très stables, chimiquement très stables. Il y a un oxyde dont vous vous servez tous les jours, en tout cas si vous ne voulez pas sentir mauvais, qui est l'oxyde de dihydrogène, c'est-à-dire l'eau. Tous les jours, normalement, prenez une douche, je ne sais pas quoi, bon bref. Pas un bain, c'est pas bien. Voilà, pour ne pas sentir mauvais. Eh bien, l'eau, ça fait des milliards d'années que c'est sur Terre sous forme d'eau. Solide, hein ? Pas beaucoup de couples sur Terre qui durent des milliards d'années. Hein, bon, même les deux là-bas qui n'auraient pas dû être à côté l'un de l'autre. Donc, les oxydes, c'est des molécules qui sont chimiquement très très stables. Et le CO2 n'y fait pas exception. Donc, une fois que vous le mettez dans l'air, il n'y a rien qui l'en enlève directement tant qu'il est au milieu de l'atmosphère. Rien. Pour que le CO2 veuille bien ressortir de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là, il peut lui arriver l'une des deux choses suivantes. Il est absorbé par vos géraniums, donc c'est la photosynthèse. À ce moment, le CO2 est repris à l'air, mais par contact avec les feuilles de la plante. D'accord, il n'est pas au milieu de l'air en contact avec rien. Et ça a besoin d'énergie pour fonctionner. C'est pour ça qu'on appelle ça photosynthèse. Vous avez besoin du photon, de la lumière du soleil. C'est ça l'apport d'énergie qui permet à la molécule de CO2 d'être cassée. Hein ? Sinon, si vous essayez de faire pousser des plantes illégales dans un placard sans éclairage, ça ne marche pas. Donc ça montre bien qu'il faut de l'énergie. Et enfin, la deuxième manière que le CO2 peut avoir d'être repris à l'atmosphère, c'est d'être dissous dans l'eau océanique. Et ça, c'est juste une affaire de vase communicant. D'accord ? L'eau peut être dissous dans l'air, enfin peut être contenu dans l'air, il peut être contenu dans l'eau. Si en proportion il y en a plus dans l'air que dans l'eau, bah, il passe dans l'eau pour partie, mais c'est réversible. Si à un moment la concentration dans l'air diminue parce qu'on réussit à l'en faire ressortir, une partie de celui qui est passé dans l'eau ressort de l'eau. Hein ? C'est un processus de vase communicant. À cause de ce que je viens de vous dire, voilà le drame, enfin oui, on peut dire le drame du changement climatique. Ce que vous dit cette courbe, c'est qu'elle vous donne la fraction d'un surplus de CO2 qu'on a créé au cours du temps après arrêt des émissions. Dit autrement, on a créé un surplus de CO2 avec les émissions de CO2 qu'on a faites dans l'atmosphère. Donc il y a plus de CO2 aujourd'hui qu'il y a un siècle. Question, ce plus de CO2, en combien de temps il s'évacue si on arrête d'émettre ? Eh bien, cette courbe vous donne la réponse. Au bout d'un siècle, il vous reste encore quasiment la moitié de votre surplus. Au bout d'un millier d'années, il vous en reste entre 20 et 30%. Et au bout de 10 000 ans, il vous en reste encore entre 10 et 20%. L'atmosphère, pour le restant des temps historiques, ne reviendra jamais dans l'état dans lequel elle était en 1750. Jamais. Ce qui veut dire que le système climatique, d'une certaine manière, ne reviendra jamais, pour les temps qu'il reste à l'humanité à vivre, dans l'état dans lequel il était avant le début de la civilisation industrielle. Jamais. Donc l'idée que la pollution climatique est une pollution qu'on peut supprimer en prenant les mesures appropriées est malheureusement une idée qu'il faut se sortir de la tête. On peut l'atténuer, et il faut le faire, mais il y a une partie de l'héritage du passé qu'aujourd'hui on ne peut plus refuser du tout. On va se le payer de toute façon. C'est ça qui vous explique pourquoi le climat à l'avenir va continuer à dériver quoi qu'on fasse. Il dérivera d'autant plus vite qu'on essaiera de profiter de l'énergie fossile tant que ça passe, mais on ne peut plus empêcher cette dérive de survenir désormais. Une autre manière de dire ça, c'est que le climat de l'an 2000 est perdu à jamais. Déjà. Il est déjà perdu à jamais. Voilà, faut s'y faire. Enfin, faut s'y faire. Faut le prendre en compte. Alors, bien évidemment, ce problème-là s'échelonne sur des pas de temps qui sont hors de l'entendement. C'est un des problèmes qu'on a. Ça va très au-delà d'une ou plusieurs vies humaines et surtout, ça va très, très au-delà d'un mandat d'élu. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ça va aussi très au-delà de la stratégie long terme dans une entreprise cotée qui se balade entre 6 mois et 3 ans. Ça se balade très au-delà des pas de temps avec lesquels on a l'habitude de gérer nos affaires aujourd'hui. Donc, un des problèmes du changement climatique, c'est ce qu'on appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire le fait que les pas de temps caractéristiques du problème sont en complet décalage avec les pas de temps des organes de gestion que nous avons mis en place. Aucun élu dans cette salle ne va prendre en compte ce que sera la planète en 2080 dans son programme électoral. Enfin, où ça va peser très très peu. Voilà, donc c'est ça un des problèmes. Alors, je mets plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Du coup, l'atmosphère garde plus d'énergie près du sol et la température moyenne au sol augmente. C'est exactement ce que vous montre cette courbe. Alors, cette courbe, elle part de 1850 et elle vous donne la température moyenne de la planète. Alors, par convention, le zéro, c'est la température sur la dernière moitié du 19e siècle. Et vous voyez qu'au 19e siècle, la température, on n'émet pas encore beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, donc ça va encore à peu près. Et puis au 20e siècle, la température moyenne commence à s'élever. Et à l'heure à laquelle je vous parle, on a gagné à peu près 1,2 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Alors vous allez me dire 1,2 degré, bon, ben voilà, bon, so what? Alors so what, c'est déjà suffisant pour que 15 à 20% des coraux soient morts sur Terre. C'est déjà suffisant pour que ça ait contribué à ce qu'un tiers de la superficie française ait brûlé en Australie il y a un an. Un tiers de la superficie française, quand même. Une surface presque équivalente en Sibérie la même année. Allez, cette fois-ci, seulement 10%, ridicule, de la superficie française en Californie a brûlé. Et puis encore la même année, au Pantanal, ça a brûlé aussi. Enfin bon, bref. Donc, c'est déjà suffisant pour que ça déclenche, que ça favorise de manière massive des feux de forêt dans le monde. C'est suffisant pour avoir contribué, alors j'ai pas le temps aujourd'hui, mais j'ai une conférence qui tourne sur Internet qui s'appelle de Daesh à la COP 21, si ça vous intéresse d'aller la regarder. Je décortique pas à pas en quoi ça a contribué au printemps arabe également et au déclenchement des troubles en Syrie. Évidemment, c'est une goutte qui a fait déborder le vase. Ça fait pas déborder le vase à lui tout seul, mais ça a été un contributeur, ça a été un déclencheur. C'est suffisant pour avoir contribué à une baisse de la récolte de pommes de terre de 40% en France il y a 2 ans, etc. Enfin, voilà, on commence à en avoir des traductions aujourd'hui. C'est suffisant pour avoir flingué une quantité significative d'épicéa dans les Vosges. Donc, enfin, ça commence à arriver, c'est 1,2 degré. Hein. C'est plus totalement virtuel, cette histoire. Et ce que vous voyez, c'est à l'avenir, quelle pourrait être l'élévation de température moyenne en fonction de ce que nous allons faire. Donc ça, c'est le scénario Mélanie Cognier. Vous voyez, on est... on ne voit pas la souris. Alors, pardon, c'est en jaune, là. C'est le scénario Mélanie Cognier. Donc c'est un scénario dit Accord de Paris. C'est le scénario dans lequel, très très vite, on appuie sur la pédale de frein en ce qui concerne les émissions. Le scénario rouge, c'est le scénario croissance infinie dans lequel on émet de plus en plus de CO2 parce qu'on a une économie de plus en plus florissante, entre guillemets, et aucun facteur limitant à l'économie jusqu'en 2100, c'est-à-dire ni le changement climatique, ni l'absence de combustibles fossiles, ni l'absence de ressources, ni rien, et voilà, ni l'invasion des Martiens, ne gêne la croissance économique jusqu'en 2100. Alors, ce que vous voyez, c'est que l'élévation de température en 2100 est très discriminée en fonction de ce qu'on va faire sur les émissions. Par contre, ce que vous voyez, c'est que pour les 20 années à venir, il n'y a quasiment pas de différence selon la couleur de la courbe. C'est la conséquence de la grande inertie du CO2 dans l'atmosphère dont je vous ai parlé. En fait, quel que soit le scénario, la dérive des 20 prochaines années, elle est déjà embarquée. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce qui veut dire que non seulement il va falloir s'occuper de baisser les émissions pour qu'à l'arrivée, on soit plus près de la courbe jaune que de la courbe rouge. Mais en plus, il va falloir commencer à gérer des désordres croissants et qui vont continuer à s'amplifier dans les décennies à venir. De toute façon, quoi qu'on fasse. Hein ? Le changement climatique, c'est un peu comme une voiture pour laquelle, au moment où vous appuyez sur la pédale de frein, le premier truc que fait la voiture, c'est de continuer à accélérer pendant 20 ans. Hein, c'est ça le parallèle qu'il faut avoir en tête. Alors, est-ce que quelques degrés, c'est beaucoup ou c'est peu? Je vais essayer de répondre à cette question avec une petite comparaison historique. Vous avez ici le genre d'écosystème qu'on trouve en Europe avant, on va dire, le début du XXIe siècle, à condition qu'on ne leur fasse pas des misères pour mettre autre chose à la place. Alors, le autre chose, ça a été essentiellement des cultures, mais également des infrastructures, etc. Vous voyez que nous avons essentiellement des forêts. Ça veut dire que le climat est suffisamment doux, et enfin pas ni trop chaud ni trop froid, et surtout suffisamment humide pour qu'il pousse des grosses espèces végétales. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Alors il y a 20 000 ans, dans le cadre des variations climatiques naturelles, parce que le climat a toujours varié naturellement, pas à la même vitesse qu'aujourd'hui, mais il a toujours varié naturellement, l'Europe est beaucoup plus froide. On est au cœur de la dernière ère glaciaire. Alors ce que vous voyez, c'est que le paysage est très... Enfin, bonne nouvelle pour ceux qui aiment le rugby, les Irlandais et les Écossais étaient aussi sous la glace. Vous voyez, alors, pour faire toutes ces grosses calottes de glace, celles posées sur la Scandinavie, sur le Canada, il y en a également une sur la Sibérie, il faut bien avoir pris l'eau quelque part. Hein, tous ceux d'entre vous qui font des glaçons dans le frigo savent qu'en général, ça, c'est toujours pareil, il faut prendre de l'eau pour faire les glaçons. Alors, l'eau qui a permis de faire ces énormes glaçons, elle vient de l'océan. Il y a eu un énorme transfert d'eau par évaporation et précipitation sous forme de neige, très longtemps, entre l'océan et les continents. Et du coup, le niveau des océans a baissé de 120 mètres, parce que l'océan, c'est une grande baignoire, et si vous retirez de l'eau, bah, le niveau de la baignoire baisse. Et donc, pas de Brexit, puisqu'il y a une continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne, pas de paradis fiscaux dans les Anglo-Normandes, puisqu'il n'y a plus d'Anglo-Normandes, pas d'éolien offshore en mer du Nord, puisqu'il n'y a pas de mer du Nord. Donc, vous voyez que le trait de côte est très, très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec. Vous savez que quand le climat est très froid, en général, il y a peu de précipitations parce qu'il y a peu d'évaporation. Un climat très froid est un climat dans lequel il y a peu d'évaporation, peu de précipitations. Et donc, les écosystèmes à l'époque, ils sont froids et peu arrosés, ils sont maigrichons et ils ressemblent à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie. Voilà à quoi ressemblent les écosystèmes de l'époque. Et enfin, à cette époque-là, la totalité de la population française est bien inférieure à celle du Mans, enfin de l'agglomération du Mans, puisque la population française dans son ensemble fait 100 000 personnes en gros. Bon, le recensement n'était pas très précis. L'INSEE était un peu moins performante, mais en gros 100 000 personnes. Quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, ça s'est fait dans le cadre d'un réchauffement planétaire global. Hein, vous êtes d'accord avec moi que faire fondre un glaçon en le refroidissant, ça marche moyen. Donc il y a eu un réchauffement planétaire, eh bien ce réchauffement planétaire, il est juste de 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qu'on est capable de reconstituer avec des analyses du passé, qui vous montre à quoi ressemble l'évolution de l'environnement avec un réchauffement de 5 degrés en 10 000 ans. Alors, vous pouvez me dire, ah, ces 5 degrés, c'est vachement bien, parce que au moment de la dernière ère glaciaire, l'Europe était incultivable. Maintenant, elle est cultivable. C'est quand même vachement mieux. Alors, je vais vous dire oui, très bien. Ce raisonnement a quand même des limites. Prendre 20 ans, entre 0 et 20 ans, en ce qui vous concerne, c'était une très bonne affaire. Entre 50 et 70, ça doit probablement se discuter un peu plus. Donc, une élévation de température n'a pas toujours le même bénéfice, quel que soit le point de départ, et par ailleurs, ça n'a surtout pas le même bénéfice, quelle que soit la durée d'application. Donc là, si on parle de quelques degrés en un siècle, c'est un réchauffement 100 fois plus brutal que celui qu'on a eu à cette époque-là. Donc je vais vous le dire très très vite, parce que je n'ai pas le temps de détailler les conséquences ce soir. La conséquence qu'il faut retenir d'un réchauffement de quelques degrés en un siècle, c'est pas on va mettre un pull de plus ou de moins et on va s'empailler pour savoir si les écolos sont des gens fréquentables ou pas. Ça sera la guerre partout. C'est ça, quelques degrés de plus en un siècle. Ça sera la guerre partout. Ça sera l'effondrement des structures politiques stables sous les coups de boutoir d'un défaut de ressources qui s'appliquera de manière massive à 8 milliards d'hommes sédentaires sur Terre. Donc le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose qui est juste un problème d'inconfort ou éventuellement de pommiers qui crèvent dans le jardin, ce n'est pas très grave, on mettra autre chose à la place. Non, on est en train de parler de quelque chose qui a la capacité à handicaper l'approvisionnement alimentaire d'un certain nombre de milliards d'hommes. Et vous savez que quand on commence à avoir des problèmes alimentaires, en général, les gens ne restent pas tranquilles. Ça a la capacité de porter atteinte aux infrastructures de façon absolument massive, etc. Donc en fait, ça va provoquer des désorganisations. Et ce qu'il faut garder en tête sur ces désorganisations, c'est que ça n'arrivera pas de manière tranquille et prévisible. Ça vous fera des Covid. C'est-à-dire, dimanche, tu circules, lundi, tu es claquemuré chez toi. Dimanche, tout allait bien, lundi, ça ne va plus. Ça va arriver par marche d'escalier, cette affaire. Hein ? Ça va arriver par marche d'escalier. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein ? Et par ailleurs, comme l'expérience est inédite, alors, il y a des tas de conférences qui tournent sur Internet auxquelles je vous renvoie pour avoir des conséquences plus détaillées de tout ça. Il ne faut pas s'imaginer une seule seconde que la science est capable de vous donner par le menu toutes les conséquences possibles en fonction des degrés de réchauffement. À 3,52 degrés de réchauffement en un siècle, alors je risque très exactement ceci sur la perte d'approvisionnement alimentaire en 2075 et très exactement le 3 juillet. Non, vous ne trouverez jamais des trucs comme ça. Ça n'a aucun sens. Ce qui veut dire que si on essaye de mener l'expérience jusqu'à son terme, ce qu'on va avoir, c'est essentiellement des surprises. Et évidemment, des mauvaises surprises. Et le dictionnaire étant bien fait, une surprise, c'est un truc pour lequel on n'a pas eu le temps de s'organiser. C'est bien pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça prépare ce genre de truc, si on va jusqu'à son terme, quelque chose qui ressemble plus à des effondrements, locaux ou régionaux, que à, bon, c'est un peu inconfortable, on mettra la clim dans les villes pour passer les vagues de chaud, et puis voilà, ça ira bien, quoi. C'est pas du tout ça qui nous attend. Alors, si on veut éviter le gag, qu'est-ce qu'il faut avoir comme ordre de grandeur en tête? Et c'est là-dessus que je vais terminer. Vous avez ici une courbe qui a été, enfin un graphique qui a été sorti par le GIEC il y a maintenant 7 ans et qui vous donne la réponse du système climatique en température, c'est l'axe vertical, en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, c'est la courbe horizontale. Alors, plus exactement, la quantité totale de CO2 qu'on met jusqu'en 2100. Donc, on démarre au moment où on joue avec la machine à vapeur pour la première fois, et on va jusqu'en 2100. Ça, c'est la courbe du haut, c'est des milliards de tonnes de CO2. Et ça vous dit de combien la planète va se réchauffer, c'est l'échelle de gauche, à ce moment-là, en fonction de nos émissions. Alors, pour donner à ça un tour un peu concret, à fin 2018, on avait mis dans l'air 2200 milliards de tonnes de CO2 depuis les débuts de l'ère industrielle, en jouant avec la machine à vapeur, la machine à pétrole et la machine à gaz. Et donc, ce graphique vous dit que l'atmosphère, la température planétaire, va se réchauffer d'à peu près 1,5 degré. Si on veut se limiter à 2 degrés, à ce moment, on fait le chemin inverse. On dit, ben voilà, on a le droit d'émettre 3 000 milliards de tonnes de CO2, dont 2 200 ont déjà été émises. Et pour l'essentiel, depuis 1945, c'est-à-dire il y a 80 ans. Il se trouve qu'on est en 2021, donc il reste 80 ans jusqu'en 2100. Il se trouve que 800, c'est à peu près le tiers de 2200. D'accord ? Donc ça veut dire que pour les 80 ans qui nous restent jusqu'en 2100, l'humanité a collectivement le droit d'émettre le tiers de ce qu'elle a émis sur les 80 ans qui viennent de s'écouler, à une époque où la population planétaire était en ordre de grandeur 2,5 fois moins nombreuse sur l'ensemble de la période. Je vais vous le dire autrement. Ça veut dire qu'un papy ou une mamie qui meurt aujourd'hui à 80 ans a émis sur sa vie 7 à 9 fois plus de CO2 que ce qu'un bébé qui naît aujourd'hui a le droit d'en émettre sur sa vie. 7 à 9 fois plus. Voilà, c'est ça les 2 degrés de l'accord de Paris. C'est qu'un bébé qui naît aujourd'hui, sur sa vie, il a le droit d'émettre le 9e de ce que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont émis sur leur vie. Voilà, ça c'est l'accord de Paris. Alors vous comprenez bien, une fois que je vous ai dit ça, que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et vous comprenez bien, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'importance des combustibles fossiles dans ce qui a fait, parce que les combustibles fossiles, c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde dans lequel on vit. Eh bien, vous comprenez bien que ça ne va pas se faire sans toucher à tout partout et sans toucher en particulier à notre sacro-saint pouvoir d'achat. Voilà. Et en particulier, si on veut que ça marche, à partir de maintenant, il faut que tous les ans, les émissions baissent sur Terre d'environ 5% par an. Et 5% de baisse sur une année, c'est ce qu'on a eu en 2020 avec, avec le Covid. Donc, en gros, l'accord de Paris, c'est un Covid de plus tous les ans. Alors vous allez dire non. Bon, très bien. Dehors, allons voir un coup tant qu'il y en a. On ne va pas l'écouter. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a également une voiture balai. La voiture balai s'appelle la déplétion des combustibles fossiles. Car quand vous avez quelque chose qui met 50 à 400 millions d'années à se former, vous êtes d'accord avec moi que c'est difficilement qualifiable de renouvelable aux échelles de temps qui nous intéressent. C'est très renouvelable à l'échelle de 50 millions d'années. Mais bon, comme nous, on vit un peu moins longtemps que ça, à nos échelles de temps, ce n'est pas renouvelable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en avoir indéfiniment plus qui sort du sous-sol. Ce n'est pas possible. En fait, les mathématiques vous l'interdisent. Et alors, là, vous avez un document qui a été publié en 2018 par l'Agence internationale de l'énergie qui est passé beaucoup plus bas dans l'écran radar des médias qu'à peu près n'importe quel chien écrasé dans n'importe quel village de France, mais qui vous dit un tout petit truc, juste un tout petit truc, qui vous dit la production de pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables de bitumineux au Canada, est passé par un maximum mondial en 2008 et ça décline depuis. Qui était au courant dans la salle ? À part les ayatollahs comme moi, là. Personne. Bon. Donc, ça fait plus de 10 ans que l'approvisionnement pétrolier décline dans le monde. Et il ne décline pas parce qu'on a peur du changement climatique. Il décline juste parce que le maximum des découvertes de pétrole, ça s'est passé à peu de choses près l'année de ma naissance, que depuis, ça décline, et que pour faire sortir du pétrole de terre, il faut quand même commencer par le découvrir. Si vous ne savez pas où il est, c'est compliqué de le faire sortir. Et voilà, en parlant de sortir, quelque chose qui sort du four, qui est un graphique issu d'un travail que le Shift Project a publié, enfin, ou a effectué plus exactement avec l'argent du ministère des Armées. Donc, on a des fréquentations pas avouables au Shift Project. On a réussi à obtenir un peu d'argent du ministère des Armées pour aller travailler une base de données extrêmement détaillée sur l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde. Il y a trois sociétés dans le monde qui détiennent des bases de données très, très détaillées comme ça. L'abonnement annuel à ce genre de base de données, le tarif catalogue, c'est quelques millions de dollars par an. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas cet argent. Nous, on a réussi à le négocier pour une fraction de pourcent de ce montant-là. Mais on a publié donc les résultats et le travail a été fait par trois personnes qui connaissent très bien le secteur, dont l'ancien patron de l'exploration de Total. Bon, donc on ne peut pas nous dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Et le graphique, vous l'avez là, sur la production de pétrole des 16 premiers fournisseurs de l'Union européenne. Donc on a pris les 16 premiers fournisseurs de l'Union européenne, on a regardé combien de pétrole ils pouvaient produire à l'avenir sur la base de tous les gisements inventoriés et ceux restants à découvrir, etc. Et le trait, c'est aujourd'hui. Eh bien, vous voyez que même en estimation haute, on ne revient pas à la production pré-Covid, 2019. Et vous voyez surtout que, quelle que soit l'hypothèse qu'on fasse sur le shale oil, sur le pétrole de schiste aux États-Unis, ça descend et à un moment, ça se met à descendre très vite. Donc l'automobiliste français, que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, va devoir faire avec moins de pétrole, même si le changement climatique, il considère que c'est une lubie d'écolo. De toute façon. De toute façon. Donc on va être coincé à l'avenir entre le problème climatique et le problème à l'amont de ressources. Et c'est dans cet univers compliqué, désagréable, qui empêche de faire toutes les promesses électorales qu'on veut, qu'il va falloir qu'on navigue. Alors, avant de finir, l'Agence européenne de l'environnement a publié en janvier dernier. Alors, l'Agence européenne de l'environnement est une institution officielle de l'Union, exactement comme la Cour de justice ou comme la Commission. Hein, c'est pas une ONG. Donc l'Agence européenne de l'environnement a sorti en janvier un document qui là aussi est passé totalement sous les écrans radars et qui dit en gros la croissance verte il n'y en aura pas. Voilà, si vous savez lire entre les lignes. Donc s'il y a de la croissance elle n'est pas verte et si c'est vert il n'y a pas de croissance. Voilà, je vous le dis très, très brutalement mais c'est à peu près ça qu'elle dit. Et moi je rajoute un deuxième truc qui est de toute façon qu'on le veuille ou pas, la croissance c'est l'énergie et de l'énergie il va y en avoir moins à un moment ou à un autre et à ce moment il n'y aura plus de croissance. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui au Shift Project, et je finis avec ça, c'est comment est-ce qu'on ne désespère pas Billancourt dans un monde sans croissance et comment est-ce qu'on fait pour régler le problème climatique en ne comptant pas sur de plus en plus de moyens pour le faire. Voilà. C'est très exactement ça la question qu'on se pose, parce que, à mon sens, c'est très exactement la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Elle peut être très désagréable, peut-être qu'à la fin de cet exposé, vous vous dites que vous auriez mieux fait de rester chez vous, mais en attendant, c'est malheureusement très exactement ça la question qu'il faut qu'on se pose quand on a bien fait le tour des contours physiques du problème. Voilà. Et j'ai été très bavard, et donc là je m'arrête, mon train est demain matin, donc là vous pouvez y aller.
Merci, Monsieur Jancovici. On va prendre les questions en ligne, enfin sur le téléphone, à la volée. Est-ce que vous voulez qu'on répète le numéro ? Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît, Monsieur Garnier ? Non ? Alors, je le redonne. Je retrouve ma fiche. Merci. Donc, vous pouvez nous envoyer des SMS au 06 78 15 14 63. 06 78 15 14 63. Je le répéterai ainsi, il faut. Alors, on va commencer avec la première question.
Alors, une première question. Alors, en revenant sur le descriptif des différents types d'énergie que vous avez présenté. Quelqu'un pose la question suivante. Vous disiez que du coup que le photovoltaïque, ça crée en gros 50 grammes de CO2 par kilowattheure. En tout cas, c'est ce qu'il fallait. Donc une remarque tout simplement que vous allez pouvoir peut-être argumenter. Cet internautateur du coup dit donc il est inutile de payer de l'électricité verte. Puisque ça n'existe pas finalement.
Alors il y a beaucoup de questions en fait dans cette affirmation simple. La première, c'est est-ce que ça a du sens de mettre un adjectif derrière de l'électricité ? En fait, non. L'électricité, elle est le côté vert est quelque chose qui ne se manifeste pas dans l'électricité. On peut quantifier les émissions de gaz à effet de serre que l'on fait pour produire un kilowattheure électrique. Ça existe. Après, vert, on peut décider que c'est à partir de 50 grammes, c'est vert, à partir de 100 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est vert, à partir de 400, c'est vert, à partir de 2, c'est vert. Ouais, voilà. Donc, vert, ça n'a pas de contenu normatif. Si je vous donne les ordres de grandeur en ce qui concerne la production électrique, ils sont les suivants. Pour faire 1 kilowattheure au charbon, c'est 1000 grammes, 1 kilo de CO2. 1 kilowattheure au gaz, c'est à peu près 400 grammes de CO2 par kilowattheure électrique. Kilowattheure au pétrole, c'est à peu près 800. Si vous faites de l'électricité au pétrole, il y a encore des turbines au fioul. Si vous faites du photovoltaïque, c'est à peu près 50. Alors vous allez me dire, le panneau n'émet pas de CO2. Oui, c'est tout à fait vrai, le panneau n'émet pas de CO2. Par contre, il a fallu, pour avoir l'électricité photovoltaïque, faire le panneau. Alors faire le panneau, c'est fondre du silicium, ça demande de l'énergie. C'est faire un cadre en acier, ça demande de l'énergie. C'est mettre un onduleur, etc. Donc si vous regardez la totalité de ce qu'il faut avoir pour que le panneau puisse fonctionner, et que vous rapportez ça à la durée de vie du panneau, c'est comme ça que ça marche, une analyse, eh bien vous vous rendez compte que sur sa durée de vie, en France, parce qu'évidemment, dans le désert saoudien, ça serait deux fois plus faible, puisqu'il y a deux fois plus de production, plus de soleil. En Norvège, ça serait deux fois plus fort, parce que la Norvège est un pays un peu moins insolé que la Côte d'Azur. Eh bien, vous avez, même que le pays sartois, vous avez un contenu carbone pour le photovoltaïque en France qui est de l'ordre de 50 grammes. Après, si je vais sur les barrages, l'éolien et le nucléaire, on se promène aux alentours de 10. Un peu plus, un peu moins, ça dépend. Sauf dans un cas très particulier du barrage de Petit Saut en Guyane, où au moment où on a mis en eau le lac de barrage, on a noyé la végétation qui s'y trouvait, elle se décompose en faisant du méthane. Et si vous rapportez cette production de méthane à la production électrique du barrage, le barrage de Petit Saut en Guyane émet autant qu'une centrale à gaz. Voilà. Mais c'est vraiment une bizarrerie, on va dire, dans le monde des barrages. Je vais en profiter pour faire un complément. Ça veut dire qu'en France, quand on dit qu'on veut remplacer du nucléaire qui est à 10 grammes de CO2 par de l'éolien et du solaire qui sont respectivement à 10 et à 50, c'est un débat hors climat. C'est pas un débat qui concerne la décarbonation de la France. Alors, c'est un débat hors climat. Si vous remplacez un truc à 10 par un truc à 10, sur le plan du climat, c'est équivalent. Si vous remplacez un truc à 10 par un truc à 50, sur le plan du climat, c'est même un peu moins bien. Hein ? Donc, la seule justification à faire baisser le nucléaire, c'est si on est tellement contre le nucléaire qu'on veut n'importe quoi sauf du nucléaire. Mais ce n'est pas du tout une justification climat. Je vous le dis parce que le discours officiel mélange à dessein les deux en permanence. Le discours gouvernemental, en ce moment, est un joyeux gloubi-boulga dans lequel les deux sont mélangés en permanence. Voilà, donc je précise juste ça. Pardon, aussi, un dernier truc que je voulais dire sur l'électricité verte. Quand vous pensez acheter de l'électricité verte parce que vous achetez à un fournisseur d'électricité verte, en fait, vous n'achetez pas une électricité différente de celle de votre voisin. Vous êtes physiquement connecté au même réseau que lui. Donc, en fait, un distributeur d'électricité verte ne vous vend pas un produit qui est physiquement différent du produit que vous achetez chez le voisin. En fait, tout le monde est sur le même réseau. Un réseau électrique, c'est très simple. Hein. C'est un gros abreuvoir dans lequel vous avez plein de robinets ouverts. Ça, c'est les centrales électriques. Et plein de tuyaux qui soutirent. Ça, c'est les consommateurs. Hein. Et au milieu, vous avez le réseau qui est un truc qui mutualise. Bon. Quand vous avez 200 robinets qui sont ouverts dans un abreuvoir et 200 pailles de gens qui boivent dans l'abreuvoir, est-ce que vous pouvez dire « moi, je bois l'eau de tel robinet » ? Non. Vous buvez l'eau de l'abreuvoir comme votre voisin. D'accord ? Tout le monde boit la même eau. Bah, l'électricité, c'est exactement pareil. Tout le monde utilise physiquement la même électricité. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est verte ? Le mécanisme de « verdissement » entre guillemets correspond à la chose suivante. Les producteurs d'électricité renouvelable en France qui ne bénéficient pas d'un tarif d'achat garanti, c'est-à-dire essentiellement les barrages, ont le droit de vendre séparément leur kilowattheure et ce qu'on appelle un certificat de garantie d'origine, c'est-à-dire le fait qu'il y a un kilowattheure renouvelable qui existe quelque part. Et ce certificat de garantie d'origine va vivre sa vie indépendamment du kilowattheure qui a été vendu par le producteur d'électricité renouvelable. Et donc le distributeur d'électricité dite verte l'achète, ce certificat, donc par exemple Total Energy, et vous vend le certificat avec le contrat de distribution d'électricité, mais qui en pratique fait que vous restez physiquement branché au même endroit. Du reste, si vous avez changé de distributeur d'électricité, vous n'avez pas changé de branchement. Personne n'est venu chez vous en disant « attendez, je vous débranche les trucs du réseau, là, puis je vais tirer un câble qui va aller jusqu'à 100 bornes là où se trouve l'éolienne ». Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous restez branché exactement au même réseau, vous consommez exactement la même électricité, mais la convention qu'on vous applique a juste changé. D'accord ? Mais cette convention ne change pas la réalité physique. Et en fait, ces certificats de garantie d'origine, c'est juste du profit additionnel pour les détenteurs de barrages, essentiellement, qui sont capables de vendre ces certificats, en plus, je le disais, des kilowattheures. Voilà. Donc en fait, cette notion d'électricité verte, au sens de l'article qui vient d'être amendé dans la loi climat à l'Assemblée nationale, et ça c'est une très bonne chose, devrait être interdite, ça devrait être assimilé à de la publicité mensongère.
Alors, puisqu'on est sur les questions de production d'énergie, du coup, une autre question par rapport au biogaz. Est-ce que pour vous, c'est une alternative qui peut être viable ? Est-ce que ça peut se faire en circuit court ? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dessus ?
Alors, si je, sur le biogaz, si je reprends, si je fais la, comment dire ? Si je me mets dans la continuité de la réponse précédente. En France, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'électricité est déjà décarbonée. Donc, si on se place dans une optique dans laquelle, ce qui est la mienne, hein, où la course contre la montre, elle est avant tout sur le sujet climatique et avant tout sur la dépendance à une énergie fossile importée qui ne sera pas éternelle. La première chose à laquelle, le premier problème auquel on s'attaque, c'est les énergies fossiles, ce n'est pas l'électricité nucléaire. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. À ce moment, les bonnes énergies renouvelables sont celles qui permettent de substituer des combustibles fossiles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonnes énergies renouvelables qui permettent de substituer des combustibles fossiles ? On a tout ce qui dérive de la biomasse dans la mesure où c'est utilisé de manière soutenable. Et en particulier, il peut y avoir le biogaz. Donc le biogaz, c'est quoi ? C'est vous prenez de la matière organique, vous faites fermenter ça, comme dans un vulgaire marécage, sauf que vous mettez ça dans un digesteur où vous récupérez le méthane, au lieu que ça vous fasse des feux follets. Et à ce moment, ce méthane, vous pouvez l'utiliser, c'est comme du gaz naturel, c'est la même chose, vous pouvez l'utiliser pour un usage où avant vous utilisiez des énergies fossiles. Alors, de mon point de vue, le biogaz, c'est intéressant. Le premier usage pour lequel c'est intéressant, c'est de substituer les combustibles fossiles dans le monde agricole lui-même. Donc, le premier usage intéressant pour le biogaz, c'est de remplacer le fuel de la mécanisation agricole par du biogaz. On sait faire aujourd'hui des gros moteurs à gaz, etc. Deuxième usage qui peut être intéressant, alors là, c'est toujours en circuit court, entre guillemets, c'est tout ce qui est transport en commun et transport de marchandises, pas très loin de là où le biogaz a été fait. Donc ça peut être les dessertes scolaires, les camionnettes de livraison, etc. Voilà. Par contre, toujours pour vous donner un ordre de grandeur, on utilise aujourd'hui en France de l'ordre de 500, un peu moins, 450 milliards de kilowattheures de gaz fossile. Si avec le biogaz, on arrive, donc 450 milliards de gaz fossile, si avec le biogaz, on arrive à 50 milliards, ça sera déjà vachement beau. Donc on ne peut pas imaginer faire du biogaz pour remplacer le gaz de toutes les chaudières à gaz qu'on a aujourd'hui. Ça, malheureusement, ça ne passera pas.
Je suis en même temps. Donc. Alors, encore une question sur les productions d'énergie, donc sur le nucléaire. La question suivante est, la question est la suivante. Donc, le nucléaire, pour vous, est-elle la meilleure solution ? Et aussi, dans la prise en compte du coût carbone du nucléaire, est-ce que vous prenez en compte tous les coûts annexes, notamment liés au démantèlement, au stockage, au traitement des déchets, etc., etc.
D'accord. Alors, c'est une réponse technique et une réponse plus sociétale. Sur la question technique, est-ce qu'on prend tout en compte quand on fait le coût carbone du nucléaire ? La réponse est oui. Et alors, la raison pour laquelle on arrive à des petits chiffres pour le nucléaire tient à la nature même de l'énergie. Exactement comme tout à l'heure, j'ai comparé le vent et le pétrole en montrant qu'il y avait une question de densité. Eh bien, je vais réappliquer ce raisonnement au nucléaire. L'énergie nucléaire est une énergie considérablement plus dense que l'énergie de la combustion. Donc l'énergie de la combustion, c'est de l'énergie chimique. Hein. L'énergie nucléaire, elle est des millions de fois plus dense. En fissionnant un gramme d'uranium, vous libérez autant d'énergie qu'en brûlant une tonne de pétrole. Ce qui veut dire que l'énergie nucléaire met en jeu des toutes petites quantités de matière pour produire des grandes quantités d'énergie. Alors c'est justement parce que vous avez beaucoup d'énergie dans un petit volume qu'il faut bien s'en protéger, donc que vous mettez du béton, puis encore du béton, puis encore du béton, puis encore du béton. C'est justement à ça que c'est ça l'origine. Un peu plus que quand vous avez un moteur de voiture. Mais par contre, l'avantage, c'est que derrière, vous manipulez des petites quantités de matière pour avoir des grandes quantités d'énergie. Or, le CO2 du cycle, il est lié à la quantité de matière qu'on manipule, la quantité de minerais qu'il faut aller chercher, la quantité d'acier et de béton qu'il faut couler pour faire le réacteur, etc. Donc vous allez faire, en fait, par rapport à la quantité d'énergie libérée, manipuler des petites quantités de matière, donc émettre proportionnellement à l'énergie produite, des petites quantités de CO2. C'est de là que vient le contenu carbone. Et par contre, l'énergie nucléaire elle-même ne fait pas de CO2. Casser un noyau d'uranium en deux, c'est pas comme oxyder un atome de carbone. Donc ça fait pas de CO2, ça. Donc le CO2 annexe, j'ai envie de dire, comme il est rapporté à des quantités de matière qu'on manipule qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles qu'avec d'autres formes d'énergie, du coup, vous avez un contenu carbone qui est très bas. C'est ça qui explique, même en tenant compte du démantèlement, de l'enrichissement, de ce qu'il y a à l'amont, à l'aval, etc. Alors après, est-ce que le nucléaire est la solution ? Si la question, c'est est-ce que le nucléaire est la solution et que je complète en pour conserver le niveau de vie que nous avons aujourd'hui sans combustible fossile dans le monde, la réponse est non. La mauvaise nouvelle, hein ? Même le nucléaire ne suffira pas, parce qu'il est trop bas aujourd'hui. Il devrait se déployer trop vite pour remplacer tous les combustibles fossiles en 30 ou 40 ans. Ça ne passe pas. Par contre, plus on en fait, plus l'effort de sobriété qu'on va devoir faire... Alors, c'est quoi la sobriété ? C'est passer de la voiture au vélo électrique. C'est passer de 40 mètres carrés habitables par personne à 30, etc. C'est manger moins de viande, c'est ça hein, la sobriété. Hein. Et c'est avoir moins d'objets de tout et n'importe quoi qui s'entassent dans la cave ou dans la corbeille de l'entrée, là, comme dit Gad Elmaleh, parce que ça peut toujours servir un jour, ça ne sert jamais. La sobriété, c'est ça. Eh bien, plus on fera de nucléaire, moins on fera d'efforts sur la sobriété, mais on en fera quand même. Hein. Donc la manière que j'ai de présenter le nucléaire comme la solution, en fait, c'est un élément de solution qui permet de nous alléger l'effort et de nous l'alléger plus efficacement que les énergies diffuses. Tout simplement parce que c'est concentré et pilotable. Donc là, on renvoie à la physique, indépendamment de tous les débats sur les coûts qu'on pourrait y passer la nuit. Le nucléaire étant pilotable et manipulant des petites quantités de matière, il est physiquement intrinsèquement supérieur aux énergies qui sont diffuses et non pilotables. Ce qui veut dire que si on fait du nucléaire, on a un effort important sur la sobriété. Mais si on n'en fait pas, on a un effort considérable. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est ça qui explique que je suis à la fois pour, tout en disant, mais ce n'est pas du tout suffisant pour nous exonérer d'efforts absolument considérables à faire sur le reste.
Alors du coup, est-ce que le futur, l'avenir, ce ne serait pas d'avoir un mix énergétique le plus large possible et non pas tout concentré sur un ou deux types d'énergie seulement ?
Alors la diversification est quelque chose qui paraît être un argument de bon sens, c'est évident. On vous dit, votre médecin par exemple vous dit, il faut que vous ayez une alimentation diversifiée. En fait, on confond souvent deux choses qui sont diversifiées et équilibrées. Mais il y a des diversifications qui ne sont pas du tout pertinentes. Alors, une blague que je fais souvent, je suis désolé si ça concerne la famille de quelqu'un dans l'assistance, est de dire, si je vous coupe une de vos deux jambes pour la remplacer par une jambe de bois, j'ai diversifié vos appuis. D'accord ? Avant, vous aviez deux jambes identiques. Après, vous avez deux jambes différentes. Vous êtes d'accord avec moi ? J'ai diversifié vos appuis. Bon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui vont considérer que j'ai amélioré leur situation. Donc, la diversification, ce n'est pas un argument d'autorité. Pour que ça devienne mieux au sens du régime alimentaire équilibré, il faut que ce avec quoi vous diversifiez soit mieux que ce que ça remplace. Mais si ce n'est pas mieux que ce que ça remplace, vous ne vous êtes pas diversifié, vous vous êtes affaibli. Donc la frontière entre la diversification et l'affaiblissement, le fameux mix, bon, ça dépend avec quoi vous remplacez. Je vais vous donner un autre exemple. Vous ne mettez que de la nourriture dans votre bouche pour manger. Je ne sais pas bien, il faut diversifier, mettez-y aussi des cailloux. Ou de l'acide chlorhydrique. Bon, oui. Donc, la diversification, oui, à condition que ça soit avec mieux que ce que ça remplace. Si c'est avec moins bien que ce que ça remplace, je le redis, ça, non seulement ça ne vous amène pas de bénéfices, mais ça vous affaiblit.
D'accord. Alors, du coup, encore deux questions sur les énergies. Après, on va passer sur un autre thème. L'hydrogène, on en parle beaucoup en ce moment. Notamment pour une possible future énergie dans les transports, en grosse partie, ou dans les procédés industriels. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie disponible dans la nature. Il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire ce soir, mais que je vais vous rappeler, donc je vais revenir à la physique. Horreur ! En physique, il y a une loi qui est extrêmement bien connue, qui est une des lois cardinales de la physique, qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. La loi de conservation de l'énergie vous dit un truc qui est tout bête. Elle vous dit dans un système qui est clos, qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie que vous avez est rigoureusement constante au cours du temps. C'est très simple comme loi. Ça se conserve. C'est comme une boîte de conserve. C'est-à-dire à l'intérieur d'un système clos, l'énergie se conserve. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour arriver à l'hydrogène ? Tout simplement parce que à ce moment, si vous regardez l'humanité pris comme un système... Eh bien, pour disposer d'énergie, l'humanité doit communiquer avec l'extérieur. L'humanité ne peut pas créer d'énergie en son sein sans communiquer avec l'extérieur. Donc, toutes les énergies qu'on peut utiliser, elles doivent déjà être à l'extérieur. Donc, l'énergie pour les hommes et les femmes, ça veut dire quelque chose qui existe déjà dans l'environnement et qu'on peut exploiter à notre profit. Alors, correspondent à cette définition le charbon qui brûle tout seul, le gaz qui brûle tout seul, le pétrole qui brûle tout seul, les chutes d'eau qui fournissent tout seul de l'énergie, le vent qui souffle tout seul, le rayonnement solaire qui fournit tout seul de l'énergie, les noyaux d'uranium qui se cassent en deux, etc. Mais il n'y a pas l'hydrogène là-dedans. Il n'y a pas sur Terre d'endroit où il y ait un réservoir d'hydrogène. Enfin, il y en a quelques sources, mais enfin, elles sont ridicules. Il y a un peu d'hydrogène natif, mais c'est tout petit. Sinon, il n'y a pas de réservoir d'hydrogène. Donc, l'hydrogène, il faut le faire. C'est comme l'électricité. Tant que vous n'aurez pas trouvé le moyen de brancher les cafetières sur les éclairs d'orage, l'électricité, ce n'est pas une source que vous trouvez dans la nature. Il faut la faire. Je vous ai montré tout à l'heure comment. Et bien, l'hydrogène, c'est pareil. Il y en a plein dans la nature. C'est le premier constituant de l'univers. Il y en a plein sur Terre. C'est le constituant principal de l'eau. Mais il n'est pas disponible sous forme d'énergie. Donc, pour l'avoir sous forme d'hydrogène pur, il faut le séparer des autres atomes auxquels il est associé, et en particulier de l'atome d'oxygène dans l'eau, ou du carbone dans le méthane. Et donc aujourd'hui, de l'hydrogène, on sait très bien en faire, ça consomme plein d'énergie, et en fait, on en fait avec, en l'extrayant à la fois de l'eau et du méthane, du gaz naturel, en mélangeant les deux. Donc on met du méthane et de l'eau ensemble, et on chauffe très fort. Et du coup, l'ensemble des deux se réarrange, et vous faites de l'hydrogène et du CO2. Faire une tonne d'hydrogène aujourd'hui, c'est 10 tonnes de CO2, avec ce processus. Si vous le faites avec la gazéification du charbon, ce qui est également une possibilité, 30 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Donc, pour que l'hydrogène devienne un vecteur intéressant dans une décarbonation de l'économie, il faut le produire sans émettre de CO2. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Le truc, parce qu'il y a plusieurs manières de faire, mais la manière que tout le monde a en tête, c'est l'électrolyse de l'eau. Mais à ce moment, il faut que l'électricité de départ soit décarbonée. Parce que si vous électrolysez l'hydrogène avec de l'électricité faite au charbon ou au gaz, et Par exemple, si vous faites de l'hydrogène avec le mix énergétique, enfin le mix électrique, pardon, pas énergétique, le mix électrique allemand moyen actuel, votre voiture à hydrogène, elle vous émet deux fois plus de CO2 que votre voiture à essence. Hein ? Donc, il faut bien le faire, l'hydrogène. Vous ne pouvez pas mal le faire. Question, qu'est-ce qu'on peut faire comme hydrogène avec de l'électrolyse ? Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez remplacer le pétrole des transports de marchandises en poids lourd en France par de l'hydrogène, il faut augmenter la production française d'électricité de 20%. Donc, en gros, il vous faut 10 à 12 réacteurs nucléaires actuels de plus. On peut le faire. Ça ne va pas se faire comme ça. Hein ? Pour les avions à hydrogène, c'est pareil, c'est la même quantité qu'il faudrait de réacteurs en plus si on voulait faire voler à l'hydrogène les avions qui quittent le sol français en ce moment. Enfin, avant Covid. Donc, pardon ? Il faut faire avec du Covid surtout, c'est plus efficace. Et si on fait avec des éoliennes et du solaire, c'est encore pire. Et surtout, c'est beaucoup plus carboné, puisque ça, le panneau solaire, il est à 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, le kilowattheure d'hydrogène derrière, par électrolyse, il est à 100 grammes de CO2. Enfin, en gros, quand vous regardez, vous vous rendez compte que l'hydrogène, en fait, il y a deux applications où c'est intéressant. Et pour le reste, en particulier dans les transports, ça ira beaucoup plus vite de passer les gens au vélo électrique et de construire des pistes cyclables que d'essayer de mettre toutes les voitures à hydrogène. Ça ira beaucoup plus vite. L'hydrogène, il y a deux applications où ça peut être intéressant. C'est pour faire des engrais. Parce que même si on aime l'agriculture douce, etc., ce qui est mon cas, on va encore avoir besoin d'engrais pendant un petit moment. Et la chimie des engrais démarre avec la synthèse de l'ammoniac, et ça démarre avec la production d'hydrogène. C'est à ça que sert 40% de l'hydrogène produit dans le monde. Et la deuxième chose qui est intéressante avec de l'hydrogène, c'est de faire de l'acier sans CO2. Aujourd'hui, l'acier est fait en mélangeant du minerai de fer, c'est-à-dire un oxyde de fer, avec du charbon, très particulier, du charbon métallurgique. Et le charbon vous enlève l'oxygène de l'oxyde de fer et vous laisse le fer. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Et ben pour enlever l'oxygène de l'oxyde de fer, on peut aussi utiliser de l'hydrogène. Les Suédois ont mis 40 milliards sur la table pour démarrer un projet comme ça. Donc le deuxième truc intéressant à faire avec de l'hydrogène décarboné, c'est de l'acier décarboné. Et je vous ai dit tout à l'heure, de l'acier, il y en a absolument partout dans nos vies. C'est aussi indispensable que le pétrole pour le mode de vie que nous avons aujourd'hui. Donc les deux applications intéressantes de l'hydrogène pour moi, c'est des applications industrielles. C'est l'acier et les engrais. Donc on commence déjà par s'occuper de ça. Et si éventuellement il reste une tonne d'hydrogène, on fera un dirigeable. Non, je plaisante. On fera un avion à hydrogène, mais c'est pas ça qui va sauver le transport aérien.
Alors une dernière question sur la partie production d'énergie. Il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps, mais on pourra peut-être y revenir dans un second temps. La biomasse. Et quelle place est-ce qu'on peut lui accorder ? Quelles sont ses possibilités de croissance ?
Alors la biomasse est une des manières d'utiliser le sol. En passant aux énergies fossiles, quelque chose de très remarquable qui s'est produit, c'est qu'on n'a plus besoin de l'espace pour notre production énergétique puisque tout venait du sous-sol. Avant, on avait besoin du sol. On avait besoin de l'herbe pour nourrir les animaux de trait, c'était de l'énergie. Et après, on n'a plus besoin de l'herbe pour nourrir les animaux de trait. Et parce que ça venait, on avait besoin du bois pour se chauffer et pour alimenter les forges. Du reste, on en avait tellement besoin que la France était en pleine déforestation jusqu'en 1850. C'est le charbon qui a sauvé les forêts françaises, aussi étonnant que ça puisse paraître. Une fois qu'on a eu le charbon, on n'a plus besoin des arbres, donc on les a laissés pousser. Donc le sol, on l'a eu entièrement pour nos activités alimentaires, récréatives et les infrastructures. Depuis qu'on a les combustibles fossiles. Quand on veut repasser aux énergies renouvelables, on a de nouveau besoin du sol. On a de nouveau besoin du sol, notamment pour l'énergie qui va remplacer les combustibles fossiles. Alors, c'est la biomasse, hein, ou ça peut être de la surface occupée par des panneaux solaires, peu importe. On a besoin du sol pour le matériau. On veut plus de plastique, on veut plus d'acier, alors on va utiliser du bois. Pour ça, il faut du sol. On veut plus de plastique pour s'habiller, on veut des fibres textiles, mais pour ça, végétales, pour ça, il faut du sol. Donc, en fait, on va se retrouver avec une concurrence d'usage du sol. Et enfin, on a besoin du sol pour les activités du pays, c'est-à-dire laisser vivre les petites bêtes, la biodiversité. Donc, en fait, le sol, il est l'objet d'un nombre d'usages concurrentiels entre lesquels il faut arbitrer. Donc, la bonne question, c'est dans cet arbitrage, où est-ce qu'on met la biomasse ? Est-ce qu'on laisse la forêt pousser et faire un puits de carbone et on se chauffe au gaz, ou est-ce qu'on se chauffe au bois en ne laissant pas la forêt pousser? Bon. Eh bien, la réponse à cette question, c'est qu'en fait, on peut utiliser au mieux, ou plus exactement, le surplus qui arrive dans un écosystème mature. Donc, en gros, tant que l'écosystème est en croissance, il faut le laisser pousser. Et une fois qu'il est mature, on peut utiliser la production supplémentaire excédentaire de cet écosystème qui sinon mourrait, se décomposerait, etc. Donc quand vous regardez ce que ça représente en France, ça représente pas très loin dans ce qu'on utilise déjà. On pourrait pas en utiliser considérablement plus. Et donc la biomasse est une bonne idée pour le chauffage en milieu rural, et le biogaz dont j'ai parlé tout à l'heure est aussi un usage pertinent de la biomasse, mais tout ça doit se faire dans des limites qui sont les limites de la non-atteinte à la capacité, enfin au stock de biomasse qu'on a dans le pays, parce que si on diminue le stock de biomasse, à ce moment c'est de la déforestation, ça contribue aux émissions.
Alors, juste pour rebondir du coup sur cette dernière question sur la biomasse et notamment sur le biogaz, est-ce que le biogaz n'a pas un risque de concurrence avec l'agriculture conventionnelle et enfin l'agriculture tout court, et est-ce qu'on n'a pas un risque d'appauvrissement des sols à long terme?
Alors il y a beaucoup de questions là aussi là-dedans ça mélange à la fois les pratiques agricoles et le produit des cultures. Donc le produit des cultures, je viens de répondre. Si, bien sûr, il y a un risque de concurrence, puisque, encore une fois, le sol, on ne peut pas l'utiliser. C'est comme l'histoire de la crémière. Hein. On ne peut pas l'utiliser pour plusieurs choses à la fois. Donc si on l'utilise pour se nourrir, on ne l'utilise pas pour la biomasse énergétique. Si on l'utilise pour faire des fibres textiles, on ne l'utilise pas pour la biomasse énergétique ni pour se nourrir, etc. Donc on a un arbitrage à faire entre tous ces usages. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence? Si, il y a de fait un risque de concurrence. Après, est-ce que les pratiques, tel usage favorise telle dégradation du sol? C'est-à-dire, est-ce que le sol se dégrade plus vite si on fait des plantes énergétiques que si on fait des plantes alimentaires? Là, la réponse est non. C'est la pratique agricole elle-même qui détermine ce qui va se passer avec le sol.
Ok, il me semble qu'on avait des questions aussi sur les conséquences du changement climatique. On change un peu de thématique.
Voilà, pour venir sur notre thématique, du coup, je pense que pas mal de personnes ont réagi par rapport à votre dernière diapositive. Vous n'en avez pas parlé, mais quid de l'emballement climatique, de ce qu'on appelle l'emballement climatique?
Alors, ce qu'on appelle l'emballement climatique, c'est la possibilité qu'un certain nombre de premières conséquences du réchauffement climatique contribuent à accélérer le processus en relâchant plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, ces emballements, il y en a plusieurs que je vais décrire. Le premier, c'est le dépérissement des écosystèmes. Par exemple, si les forêts se mettent à brûler de plus en plus souvent, une forêt qui brûle, c'est du CO2 qui repart dans l'air. Et par ailleurs, c'est un écosystème affaibli derrière pour repomper du CO2 en provenance de l'atmosphère. Hein ? Ça, c'est un phénomène d'emballement. Un deuxième phénomène d'emballement, alors plus local, celui-ci, c'est la fonte de la banquise. Quand la banquise fond, vous avez une surface très réfléchissante, la glace, qui est remplacée par une surface très absorbante, qui est l'eau océanique. Et à ce moment, l'océan se met à se réchauffer plus vite, puisqu'il absorbe plus d'énergie du soleil. Autre exemple d'emballement, vous avez dans les régions du nord, enfin plus exactement près des pôles, mais c'est surtout les régions du nord, près du pôle nord, puisque au sud, c'est très océanique. Enfin, le pôle sud est très océanique. Vous avez du sol gelé en permanence, qu'on appelle du pergélisol ou du permafrost, dans lequel vous avez du carbone qui est contenu. Ce carbone peut être contenu soit sous forme de carbone pur, soit sous forme de méthane. Et quand le sol dégèle, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des millions d'années, eh bien à ce moment, il relâche le carbone qu'il contient et ça fait une source additionnelle d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Voilà des phénomènes d'emballement. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que la science, comme on est en train de faire une expérience pour la première fois, la science connaît mal les seuils qui s'appliquent à tous ces phénomènes. On ne les connaît pas. Tous autant que vous êtes, vous avez fait des expériences pour la première fois dans votre vie. Par exemple, vous mariez. Qui, dans cette salle, s'étant marié, a eu très exactement, sur les 20 ans qui ont suivi, ce qu'il s'imaginait qu'il ou elle aurait? Bon, à peu près personne. Donc, quand vous faites une expérience pour la première fois, vous avez toujours des surprises. Ça fait partie de la règle du jeu. Donc, en ce qui concerne ces phénomènes d'emballement, on aura nécessairement des surprises, bonnes ou mauvaises. Pour le moment, on en a plutôt des mauvaises. C'est-à-dire que quand vous regardez la production scientifique de ces dernières années, pour à peu près tous les phénomènes qui sont regardés d'un peu près, les conséquences ont tendance à aller plus vite et à se rapprocher plus vite des seuils que l'idée qu'on s'en faisait il y a quelques années. Hein. Et donc la question sous-jacente, évidemment, est la crainte qu'à un moment le truc échappe à tout contrôle et que quoi qu'on fasse, de toute façon, eh bien, on va vers l'état guerrier dont je parlais tout à l'heure, et évidemment un peu désagréable. La science aujourd'hui n'a pas la réponse. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conséquences qui sont qualitativement identifiées, mais les seuils précis, difficile. Je vais vous donner un exemple. Le dernier rapport du GIEC parlait d'une élévation possible du niveau de la mer à l'horizon de quelques siècles qui était de 2 ou 3 mètres. Dans le prochain rapport du siècle, dans le scénario haut, c'est monté à 16. Et la raison, c'est l'accélération de la fonte du Groenland et les craintes sur la désintégration de l'Antarctique de l'Ouest qui sont apparues dans la littérature scientifique ces dernières années. Et dont, évidemment, la presse grand public vous parle quand ils ont fini de vous parler de la composition de l'équipe de France. Donc, qui est aussi un sujet important, mais... voilà, donc ces processus d'emballement, j'ai envie de dire, malheureusement, on en découvre un peu tous les jours parce qu'ils sont difficiles à évaluer longtemps à l'avance. Mais il y en aura.
Alors, je pense que vous l'avez effleuré dans votre discours, mais vous allez rebondir dessus, je pense, assez facilement. C'est quelles sont les conséquences du réchauffement sur la ressource en eau et la disponibilité en eau?
Alors, sur la ressource en eau, le réchauffement climatique en France va globalement conduire à un assèchement des sols. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un climat qui se réchauffe? Vous avez plusieurs choses qui se mettent à passer en simultanément. La première, c'est qu'un climat plus chaud favorise l'évaporation partout où il y a de l'eau, et en particulier au-dessus des océans. Donc un climat plus chaud favorise l'évaporation en provenance des océans. Donc globalement, il va y avoir plus de précipitations, parce qu'une fois que la vapeur d'eau est rentrée dans l'atmosphère, elle condense et elle pleut. Et la question, c'est est-ce que ça va pleuvoir partout de la même manière ou pas? Et là, la réponse est non. Et en particulier, tout le pourtour du bassin méditerranéen, et la France est un tout petit peu concernée, va avoir plutôt un déficit de précipitations. C'est-à-dire que le surplus de pluie, ça concernera les autres, mais pas nous. Ensuite, la pluie peut très bien être plus abondante dans l'année, mais plus mal répartie. Vous vous rappelez de l'épisode de précipitations intenses qui a eu lieu dans le sud de la France il n'y a pas très longtemps. Là où les inondations ont eu lieu, ils ont pris localement 800 mm de pluie en 24 ou 48 heures. 800 mm, c'est les précipitations annuelles normales ici, d'accord, en 24 heures. Donc vous avez un épisode et demi comme ça dans l'année et puis plus rien le reste de l'année. Vous voyez, vous avez plus de précipitations que d'habitude. Bon, enfin, ça ne fait pas vraiment vos affaires. Et en fait, ce qui compte vraiment en ce qui concerne la facilité qu'ont les plantes à pousser, c'est certes ce qu'il pleut, mais surtout ce que le sol va en garder. Donc en fait, ce qui compte, c'est l'humidité des sols. Et ce qui est vraiment intéressant pour savoir si demain l'agriculture et les écosystèmes se porteront bien, c'est est-ce que les sols vont être globalement plus secs ou globalement plus humides? Et là, en France, la réponse, c'est qu'ils vont devenir globalement plus secs, parce que même s'il pleut un peu plus, l'évaporation des sols va aussi fortement augmenter. Et il suffit que ces précipitations soient plus mal réparties, ce qui est aussi une tendance à venir dans le cadre du réchauffement climatique, que je devrais plutôt appeler la dérive climatique, pour que du coup, les sols s'assèchent. Donc, la sécheresse agricole et la sécheresse des sols vont statistiquement augmenter à l'avenir en France.
D'accord. Alors, une dernière question sur ces conséquences. On parle aussi notamment du Gulf Stream et du ralentissement du Gulf Stream, un courant qui est censé nous apporter de la chaleur. Comment est-ce que ça intervient dans tout ça?
Alors le Gulf Stream, en fait, c'est une expression qui est un peu impropre. Le vrai Gulf Stream, il désigne un courant qui, comme son nom l'indique, est dans le Golfe. Gulf Stream, le courant du Golfe. Donc en fait, le Gulf Stream, c'est une boucle qui ne quitte pas l'équateur. Ce qui nous réchauffe en Europe, ça s'appelle la dérive nord-atlantique. Et c'est un embranchement du Gulf Stream qui remonte et qui va jusqu'au sud du Groenland, où là, l'eau se met à plonger. Alors les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, je ne vais pas les détailler ce soir, sinon je vais vous assommer. Par contre, ce qui est important, c'est que le moteur de cette dérive nord-atlantique, c'est notamment la plongée des eaux que vous avez au sud du Groenland qui sert de pompe aspirante. Quand les eaux plongent, ça vous aspire l'eau qui est à côté. Alors la raison pour laquelle les eaux plongent, c'est à cause de leur température, de la formation de la banquise, de leur densité, etc. Bon, bref. Dans un climat qui se réchauffe, un des trucs qui pourrait se passer, c'est une augmentation des précipitations sur l'océan lui-même. Et à ce moment, un adoucissement de l'eau, la salinité diminue. Et à ce moment, la densité de l'eau diminue et elle plonge moins facilement. Et vous avez également un effet qui est dû au moins à la moindre formation de la banquise. Et alors, si la plongée des eaux se ralentit, à ce moment, la dérive nord-atlantique se ralentit. Et en fait, il y a eu des époques dans le passé où cette plongée des eaux s'est brutalement interrompue. Elle a un mode on-off, hein, un interrupteur. Et à ce moment, vous avez une modification drastique du climat régional en Europe qui s'opère en quelques décennies. Alors, si ce processus arrivait à l'avenir, dans un contexte de réchauffement global, là, pour le coup, les modélisateurs sont, ont pas de... Enfin, beaucoup vous disent la température en Europe, en moyenne, pour autant, n'évoluera pas à la baisse par rapport à aujourd'hui. D'aucuns vous disent, mais on se rapprochera d'un climat continental. Donc, en fait, avec des contrastes entre les saisons beaucoup plus marqués. Et c'est en fait, peut-être que ça sera beaucoup plus sec. Enfin, c'est un peu la bouteille à l'encre. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe si jamais cette dérive nord-atlantique s'interrompt à l'avenir. Pour le moment, il n'est pas prévu qu'elle s'interrompe dans le siècle à venir. Mais à l'échelle de quelques siècles, c'est un point d'interrogation supplémentaire.
OK. Alors, on a dressé un certain nombre de constats ce soir, tiré un certain nombre d'alertes au niveau mondial, national. Une des questions, à mon avis, qui arrive souvent aussi, c'est comment on passe à l'action locale ? Comment on peut être un territoire bas carbone ? Par où il faut commencer ?
Alors, il faut commencer par mesurer. Un des problèmes que vous allez avoir, c'est que la décentralisation du pouvoir n'est pas allée avec la décentralisation de l'expertise. Et donc, une des difficultés qu'il y a dans la gestion locale, c'est d'arriver à avoir toute l'information qui va du global au local pour savoir où est-ce qu'on a des marges de manœuvre et où est-ce qu'on est dans la barque commune. Et en fait, on peut revendiquer des choses, mais en fait, ça restera des slogans parce qu'on n'a pas les leviers de l'action. Un point important de mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas opposer le local et le national, parce que si on décide de commencer à dire c'est à toi, à moi, etc., on ne va pas s'en sortir. Donc il faut qu'on essaye de ramer tous dans le même sens. Ce qui est à la main du local, on va dire, dans l'ensemble de ce qu'il faut faire. Alors je vais commencer par dire ce qu'il faut faire. Si on veut être sérieux sur la question climatique, il faut qu'on agisse sur les émissions qui sont associées à notre mode de vie. Vous avez, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Vous avez quatre gros paquets dans ces émissions. Vous avez ce qu'on mange, vous avez ce qu'on achète, vous avez là où on vit, donc les émissions associées au logement, et vous avez la façon de se déplacer. Voilà, en gros, les quatre gros paquets. Et vous avez un cinquième petit paquet qui sont les services publics qui dépendent, voilà, si vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, et si vous avez des enfants qui vont à l'école, etc. C'est des émissions dont vous bénéficiez aussi, hein, parce que les écoles, il faut les construire, les chauffer. L'hôpital, il faut le construire, le chauffer, fabriquer les médicaments, les scanners et faire venir les infirmières. Donc tout ça fait que ça fait des émissions. Sur l'alimentation, le premier déterminant de l'empreinte carbone, c'est la part de viande qu'on mange, et en particulier de viande rouge. Donc là-dedans, il faut voir ce qui peut revenir au local. Un truc qui peut être pertinent, c'est d'essayer de se mettre d'accord entre acteurs locaux pour avoir des pratiques d'élevage qui conduisent à faire moins d'animaux de meilleure qualité, acheter plus cher, il ne faut pas que l'éleveur se suicide, et valoriser ça au travers de circuits plus courts, faisant en sorte que les marges de distribution sont moins élevées. Et du coup, les autres acteurs de la chaîne s'y retrouvent. Ah, évidemment, le distributeur y perd. Tout le monde ne peut pas gagner dans cette histoire. Mais en gros, l'équation, vous l'avez là. En ce qui concerne l'acheter, alors ça, ce n'est pas du tout à la main du territoire. Ce n'est pas vous qui allez demain matin fabriquer vos chaussures, votre robe, le micro que vous tenez à la main, la voiture dans laquelle vous êtes venu ici. Et ce n'est pas bien. Non, pardon.
Je suis venu en vélo.
Je sais. Ni le vélo, du reste. Voilà. Donc, même si c'est beaucoup mieux. Donc, le territoire là-dessus, qu'est-ce qu'il a comme main, j'ai envie de dire ? Il peut avoir de favoriser le remplacement sur son sol d'activités de l'ancien monde, entre guillemets, par des activités du nouveau monde. Donc, si vous avez un fabricant de portières de voiture et que vous arrivez à le convaincre de faire des dérailleurs de vélo, c'est pas plus mal. Mais sinon, c'est essentiellement inciter les gens à essayer d'avoir moins envie de trucs et de machins pour passer le temps. Hein ? Y a évidemment quelque chose qui, alors là, est dans la main des élus, qui est la question des locaux dédiés au commerce. tout petit sujet. Mais l'action, elle se passe là aussi. En ce qui concerne le troisième point, qui est le logement, là, ce que peut faire le territoire, c'est favoriser l'amélioration de leur performance thermique et en fait carbonique. Et donc ça peut concerner à la fois la montée en compétence des filières professionnelles, parce que c'est un énorme sujet, la montée en compétence des filières professionnelles. Ça peut concerner de l'artisanat de fabrication de matériaux, d'appareils de chauffage, etc. Et évidemment, l'incitation des habitants du territoire à améliorer la performance carbonique de leur logement. Et c'est vrai également pour le tertiaire. Et enfin, en ce qui concerne le quatrième morceau, qui est se déplacer, là, c'est pareil, le territoire, ce n'est pas lui qui va fabriquer les véhicules. Par contre, il peut inciter à des usages différenciés. Donc, il peut s'occuper des transports en commun. Il peut s'occuper des infrastructures pour le vélo. Et il peut s'occuper... mon observation, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de beaucoup changer la pratique dans le vélo, qui est le vélo électrique. Parce que l'électrification fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas peur de monter sur un vélo, même s'ils n'ont pas fait de sport depuis 45 ans et demi. Alors qu'avec le vélo mécanique, il y a cette peur. Par ailleurs, il y a un vrai sujet sur le vélo qui est la non-cohabitation avec d'autres usagers qui sont dangereux pour lui. Alors il y en a deux. Il y a ceux qui sont plus lourds et plus gros, c'est les voitures. Mais il y en a aussi un autre qui est ceux qui sont plus légers et moins rapides, qui sont les piétons. Les voies mixtes cyclistes-piétons, c'est très dangereux. Parce que le piéton pense qu'il est chez lui, donc il ne fait pas gaffe à là où il va, et il circule en regardant son smartphone et en laissant ses gosses jouer. Le cycliste pense qu'il est chez lui, et il se dit « je vais quand même pas aller à la vitesse d'un piéton, sinon ça ne sert à rien que j'ai un vélo ». Voilà. Et donc c'est des endroits qui ne sont pas si rassurants que ça. Évidemment, l'autre, c'est la voiture. Et donc là, le territoire peut agir aussi. Sur les infrastructures, et puisque un des partenaires préférés du territoire, c'est le BTP, on peut très bien leur demander de faire des pistes cyclables plutôt que de faire des ronds-points. Donc, des pistes vélo-travail. Ah oui, des pistes du quotidien, oui, bien sûr. Maintenant, quand il y aura moins de touristes japonais venant en avion, ça sera pas mal aussi d'avoir des pistes cyclables longue distance pour faire venir les Parisiens en vélo et leur offrir le gîte et le couvert une fois qu'ils sont arrivés jusque chez vous.
Mais
ça reviendra, je pense. Voilà, donc voilà en gros ce sur quoi le territoire a la main, sur quoi il n'a pas la main. Il n'a pas la main sur la production des voitures et encore moins sur leur normalisation. Il n'a pas la main sur les obligations réglementaires qui sont du ressort de l'État. Il n'a pas la main sur la fiscalité. Voilà, donc il faut à la fois qu'il s'empare de ce sur quoi il peut avoir la main sans attendre que les autres le fassent. Et ne pas tenir un discours qui, à mon avis, est contre-productif, qui est de dire il n'y a que chez moi qu'il se passe des choses intelligentes, l'État, quand même, quelle bande d'andouilles, ils n'ont rien compris, même si c'est vrai parfois. Essayer de convaincre, justement, dans la sphère nationale, qu'il faut que tout ça se fasse de manière coordonnée.
Je retiens la dimension formation. Donc ce soir, on est tous en formation en direct. Oui. Je retiens l'alimentation et le pays porte un projet alimentaire territorial. J'en profite parce que Noël Tellier, notre élu référent, est présent ce soir. Le pays porte aussi une plateforme territoriale de rénovation énergétique qui souhaite accompagner tous les habitants du territoire dans la rénovation de leur logement. Donc voilà, c'est pas parfait, mais on fait notre part. Une nouvelle question peut-être, Olivier.
On a un public qui est majoritairement composé d'élus. Donc, il y a plusieurs questions qui reviennent sur cet aspect vraiment très concret. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'actions que les élus peuvent mettre en place, notamment les élus des petites communes ?
Je redis, je pense qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel qui est de commencer par comprendre. Aujourd'hui, il y a des outils qui aident à comprendre. Je vais reparler de l'expérience. Enfin, il y a deux trucs qui me paraissent importants. Je vais reparler de l'expérience à laquelle a participé Mélanie, qui est la Convention citoyenne pour le climat, qui me semble avoir montré l'effet de levier dû à deux éléments qui sont essentiels, qui sont la formation et le fait d'agir de manière concertée. Donc de se parler, en gros. Donc dans les petites communes, il me semble que c'est les deux premières marches de l'escalier, quoi qu'on fasse derrière. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'attirer l'intérêt d'une partie aussi importante que possible de la population sur ces sujets-là. Juste leur dire, on va essayer de comprendre de quoi il se passe, de quoi il retourne. Et donc, il me semble que la bonne manière de commencer, surtout dans les petites communes où tout le monde se connaît, c'est ça l'avantage des petites communes, c'est que en gros, c'est quelques salles de classe ou un lycée. Donc, c'est pas très compliqué d'avoir tout le monde qui se connaît. Et la bonne manière de créer de la confiance ou de travailler avec des gens qu'on connaît déjà, c'est de partir de la définition du problème. Donc je pense que dans les petites communes, c'est vraiment le premier truc à faire avant de savoir si on va faire un jardin partagé, un potager, je sais pas quoi. C'est vraiment d'essayer de partir d'un constat commun. Donc là, il y a des outils qui existent aujourd'hui pour ça. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle la fresque du climat, qui est un truc très low-tech. Hein, ça se joue avec une grande feuille de papier et un jeu de 13 cartes. Un truc pas compliqué du tout. Eh bien, même dans une petite commune, on peut faire ça. Et on apprend soi-même. Sur une session, ça dure quelques heures. C'est un jeu collectif. Les gens jouent par équipe. Ils ne s'opposent pas. C'est important. Et ça permet de commencer à toucher un peu du doigt le sujet que j'ai évoqué ce soir. Il y a des outils également pour découvrir ce que c'est que son empreinte carbone personnelle. Aujourd'hui, Carbon4 a mis au point, par exemple, un outil qui s'appelle MyCO2. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais bon, vous comprendrez tous, mon CO2. C'est un outil qui se déploie notamment par le biais d'ambassadeurs, donc des gens qui peuvent faire des conférences en retribuant une somme tout à fait symbolique. Et ça, c'est également quelque chose qui peut prendre place dans une petite commune. Donc un diptyque par lequel n'importe quelle petite commune peut commencer, c'est une fresque du climat et derrière cette conférence sur l'empreinte carbone personnelle. Et une fois qu'on a fait ça, mon expérience, c'est que les gens auront des idées.
Vous venez de répondre à une autre question, donc c'est formidable, mais du coup je suis perdu. Donc la suivante, c'est une question aussi que se posent nos élus, c'est comment agir, et notamment dans la sobriété, comment engager ces actions-là tout en restant attractif et garder un territoire attractif.
Je vais refaire la même réponse. Élu, et vous le savez mieux que moi, ça ne peut pas se faire en opposition frontale avec vos électeurs. Donc ça veut dire que la première chose à faire, c'est de leur donner envie d'aller dans cette direction. Et la meilleure manière que je connaisse de leur donner envie, c'est de leur expliquer la situation. J'en connais pas d'autre. Donc je renvoie à ce que j'ai dit juste avant. Il faut qu'ils commencent par découvrir. Et ensuite, les idées viendront toutes seules.
Des gens qui ont appelé à la mairie, ils sont intéressés pour venir habiter à Souvigné. Et quand ils apprennent que j'ai participé à la convention, ça les conforte dans l'idée de venir. Donc ce n'est pas rébarbatif de vouloir réduire l'empreinte carbone. Enfin, il y a plein de gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent, quoi. Et on parlait à Sablé qu'il y a une perte de certaines familles, les familles 30-35 ans diplômées. C'est ce qu'ils recherchent, en fait. Bas carbone.
Il y a un organisme qui s'appelle l'IRSN. Alors, c'est l'Institut, je crois, ça doit vouloir dire, l'Institut sur les risques et la sûreté nucléaire. Vous allez me dire quel rapport avec ce qui va suivre, vous allez voir. Qui sort chaque année un baromètre qui vient de sortir là, cette année, où ils essayent de comparer les perceptions des Français sur un certain nombre de problèmes d'environnement. Et depuis quelques années, la question du réchauffement climatique est en train de monter en flèche dans les préoccupations des Français. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait en novembre dernier, donc en plein Covid, hein, qui le dit. Et ça passait à ce moment-là, que je ne dise pas de bêtises, devant le chômage, alors qu'on était en plein Covid. Et donc les gens savent très bien qu'il va y avoir une douloureuse économique derrière. Hein. Il n'y a que le terrorisme et la santé qui étaient devant. Mais voilà, sinon, les questions d'environnement montent. Et au sein des questions d'environnement, le réchauffement climatique se détache très nettement devant les autres aujourd'hui. Donc mon sentiment, c'est que de parler de ce genre de sujet fait fuir de moins en moins de monde. Et à l'inverse, dire aux gens on va comprendre ensemble est une démarche qui peut être de mieux en mieux perçue par une fraction croissante de la population. En tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer.
Alors, deux exemples d'actions. Donc, je vais vous donner les deux en même temps. Les zones à faible émission, est-ce que c'est efficace? Alors, même si c'est
les
pas...
zones à faible émission.
Ouais, même si c'est plus dédié à des territoires urbains. Et la deuxième question dans la foulée, c'est est-ce que l'agriculture peut être un bon vecteur pour le stockage carbone?
Alors, les zones à faible émission, sauf erreur de ma part, c'est des endroits où on essaye d'avoir des transports qui sont... on limite les émissions des véhicules, c'est ça, hein, certaines caractéristiques seulement. Et...
Notamment dans les grandes villes qui sont très engorgées aux heures de pointe.
Alors... Ouais. Alors, en fait, pour traiter les problèmes de transport, la bonne question à se poser, c'est pourquoi les gens se déplacent. Il faut partir de là, en général. Il y a deux embranchements très différents. Il y a la mobilité longue distance, qui est essentiellement une mobilité de loisirs. Et il y a la mobilité du quotidien, qui est essentiellement une mobilité qu'on appelle contrainte. C'est-à-dire qu'on part de son domicile, on va au travail faire les courses, aller chercher les gosses à l'école, etc. Bon, c'est essentiellement ça. Et là-dedans, le domicile-travail fait la moitié. Alors, les zones à faible émission, il faut donner une alternative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, dans cette zone-là, il n'y aura plus tel et tel type de véhicule, il faut qu'on donne une alternative. Alors, ça dépend de quoi il retourne. Si c'est des camionnettes de livraison, et que l'alternative, c'est que les camionnettes de livraison passent à l'électricité, bon, ça ne pose pas de problème. Si ces zones-là, c'est des zones qui sont des zones de destination pour des gens qui viennent en voiture, bah, il faut qu'ils puissent venir autrement, ou qu'on leur propose de bosser de chez eux, ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, parce qu'au moment où on met en œuvre la zone, ce n'est pas comme d'imposer quelque chose sur le renouvellement des voitures qui conduirait à ce que progressivement le parc de voitures soit de plus en plus compatible avec ce qu'on cherche à faire. Là, c'est vraiment un truc du jour au lendemain. Vous aviez un véhicule qui est celui que vous avez, vous aviez une destination qui était celle que vous aviez, et puis on vous dit, hop, c'est terminé. Donc ça va beaucoup dépendre de la zone et du type de véhicule qu'on veut sortir, encore une fois, et de la vitesse à laquelle on fait. Je pense que ça peut être une brique parmi beaucoup, mais il faut regarder les mesures concurrentes qui sont éventuellement, qui permettent d'arriver au même résultat. Il y a des mesures qui peuvent être, encore une fois, arriver au même résultat et sans dire leur nom. Sans s'appeler de la même manière. Sans s'appeler de la même manière. Sur la partie... Si je finis là-dessus, pour vous donner à grands traits ce sur quoi on a réfléchi au Shift Project sur ce qu'on a appelé les zones de moyenne densité, le cocktail qui permet d'avancer sur la voie de la décarbonation mélange la baisse des émissions unitaires des voitures toujours en circulation, donc ça veut dire qu'elles consomment moins si elles restent au pétrole qu'elles passent à l'électricité, le covoiturage, l'augmentation des transports en commun, essentiellement des bus, parce que dans les territoires de moyenne densité, on fait du bus, on ne fait pas du train, le vélo et ses infrastructures dédiées, et enfin ce qu'on a coutume d'appeler la démobilité. Alors tous ceux d'entre vous qui sont restés claquemurés pendant le Covid se disent la démobilité, ça va bien. C'est clair que la démobilité, c'est pas je bouge plus du tout, c'est au lieu de prendre ma voiture pour aller au travail, je travaille de chez moi, mais je me prends 2 heures pour aller faire un tour à pied. Voilà, donc c'est parce que sinon on explose. Donc c'est ça le, mais c'est une forme de démobilité au sens mécanique. Voilà en gros le cocktail qui permet d'avancer. Et enfin, le dernier point qu'il faut garder en tête, c'est que les marchandises n'ayant pas de jambes, le dernier transport mécanique devront rester pour les marchandises. Au moment où le pétrole est arrivé dans les pays qui en ont bénéficié, ça a d'abord été utilisé pour du transport de marchandises. Il y a d'abord eu des camions avant d'avoir des voitures. Hein ? Mélanie parlait tout à l'heure des gens qui venaient à vélo se nourrir pendant la guerre dans la Sarthe. En fait, il est évident que demain matin, s'il n'y avait plus de camions en France, les grandes villes meurent toutes de faim. Hein ? Les grandes villes meurent toutes de faim. Donc, vous avez aujourd'hui une dépendance au pétrole dans le transport de marchandises qui est encore plus élevée que dans le transport de personnes. Parce que tous les gens dans cette salle qui font 20 km dans la journée, si demain matin, il n'y a plus de voiture, vous achetez un vélo électrique, vous ronchonnerez un peu, mais vos 20 km, vous les ferez quand même. Parce que vous avez des jambes. Avec les marchandises, ça ne marche pas. Donc, il faut aussi prendre ça en compte dans l'équation, qui est que la mécanisation devra, à l'avenir, rester prioritairement allouée aux marchandises et pas aux personnes. Après, il y avait une question sur l'agriculture qui était...
Ouais, est-ce que l'agriculture peut aider à stocker du carbone ?
Est-ce que l'agriculture peut aider à stocker du carbone ? Alors la réponse est oui, elle doit même le faire. En fait, dans les puits de carbone, c'est-à-dire la manière de reprendre une partie du carbone stocké dans l'atmosphère, vous en avez deux, vous avez les écosystèmes forestiers. Enfin, vous en avez deux qui sont vraiment sympathiques. C'est les écosystèmes forestiers et l'agriculture, enfin qui peuvent l'être. L'océan, c'est pas terrible, parce que quand l'océan reprend du CO2, il s'acidifie. Donc à chaque fois que l'océan vous reprend du CO2 qu'on a mis dans l'air, ça rend la vie un peu plus difficile aux coraux, aux planctons et à tout un tas de bestioles qui ont besoin de synthétiser du calcaire. Donc, il vaut beaucoup mieux que le CO2 soit repris par des plantes. Alors, les plantes, c'est quoi ? Encore une fois, c'est les forêts et l'agriculture. Alors, dans l'agriculture, en fait, c'est pas la plante elle-même qui va reprendre le carbone. Vous faites pousser le blé, vous allez le manger ou des animaux vont le manger. À ce moment, le carbone qui est contenu dans le blé va repartir dans l'atmosphère sous forme de CO2 dû à votre respiration. C'est comme ça que ça se passe, hein. Vous mangez le carbone et le carbone ressort sous forme de respiration. Toute petite partie ressort dans des matières pas très odorantes, mais enfin ou pas très un peu malodorantes, mais l'essentiel repart dans l'air via votre respiration. Donc le CO2 était dans l'air, passe dans le blé, passe dans votre estomac, repart dans l'air. Donc celui-là, il est à cycle court, il contribue pas à séquestrer quoi que ce soit. Celui qui contribue à séquestrer quelque chose, c'est le carbone qui passe dans les racines du blé et dont une petite partie reste dans le sol parce que vous allez arrêter de labourer le sol. Voilà, c'est ça. La séquestration du carbone par les sols agricoles. Alors ça peut se faire de cette manière, ça peut se faire en remettant des haies dans les champs. À ce moment, vous avez du carbone permanent dans la haie et dans les racines des haies, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc en gros, les deux grandes pratiques qui permettent de remettre du carbone dans les sols, c'est l'arrêt du labour, parce que ça arrête d'exposer l'humus, le carbone du sol, à l'oxygène de l'air et donc de l'oxyder. Et de planter des arbres partout où on peut, en bord de champ ou ailleurs, quoi. En gros, voilà.
Très bien. Et donc une dernière question sur les actions. Quid de la mise en commun des biens ? Vous pourriez peut-être du coup nous expliquer ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et ce que vous en pensez.
Alors la mise en commun des biens, elle n'est pas nécessairement en tant que telle garante d'une baisse des émissions. Je vais vous donner un exemple idiot qui est l'avion. Si les seuls à pouvoir se déplacer en avion étaient les gens qui ont un jet privé, il y aurait beaucoup moins de kérosène consommé dans le monde qu'aujourd'hui. Beaucoup moins. Parce que personne n'aurait les moyens de s'acheter un jet privé, sauf quelques rares milliardaires. Le fait d'avoir mis en commun les avions permet à chaque personne dans cette salle de se prendre un billet d'avion. Et du coup, la consommation de l'aérien est beaucoup plus importante que si on ne pouvait prendre l'avion qu'avec son propre avion. Donc l'économie de la fonctionnalité, en tant que telle, n'est pas garante qu'on va utiliser moins de ressources. D'accord ? C'est pas garante. Par contre, ce qui peut marcher, c'est si on dit « je mets une réglementation obligeant à consommer moins de ressources », alors à ce moment, il peut apparaître des partages qui n'existaient pas avant. Et je vais vous donner un exemple qui s'appelle la colocation. Quand on est suffisamment riche pour s'offrir chacun son appartement, on a chacun sa salle de bain et sa douche. Et puis, si on n'est pas assez riche et qu'on est en colocation, il n'y a qu'une seule salle de bain pour tout le monde. Là, on a fait de l'économie de la fonctionnalité. Au lieu d'avoir 15 mètres carrés de salle de bain pour soi, on a 15 mètres carrés de salle de bain pour 3 ou pour 4 ou pour 5. Bon. Donc, mais ça vient d'une contrainte externe. Là, en l'occurrence, que les gens n'ont pas désiré, qui est l'augmentation du prix de l'immobilier. Hein. Donc, quand il y a une contrainte, que l'économie de la fonctionnalité puisse permettre de répondre à la contrainte, ça oui. Par contre, dire juste parce qu'il y a de l'économie de la fonctionnalité, la consommation globale va baisser, ça non.
Une petite transition, faire un mauvais jeu de mots, mais c'est pas grave. Justement, pour mener cette transition, quelle organisation il faut dans nos territoires ? Est-ce qu'il y a une gouvernance qui permet à la fois que les gens s'emparent du sujet, à la fois que les bonnes décisions soient prises ? Est-ce qu'il faut plus de coopération ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il faut plus de compréhension. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'endroits dans lesquels les gens ont du mal à se comprendre. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je ne vais pas commencer à faire le Parisien débarquer ici qui va vous expliquer comment vous allez gérer vos affaires, parce que je ne suis pas sûr de passer la nuit tranquille si je fais ça. Donc, par contre, ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'on avance bien que quand on se comprend. Et le partage de la connaissance, c'est la meilleure manière de encore une fois, je renvoie à l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat qui est très éclairante de ce point de vue. Il faut commencer par partager de la connaissance. Après, vous verrez bien ce qui en sortira. Et ça va beaucoup dépendre de l'endroit où on sera. Mais je pense vraiment que c'est ça la base. Et alors là, pour le coup, les élus doivent donner le bon exemple. Donc s'il y a du partage de l'information et de la formation, ils doivent s'y coller les premiers.
Bon entendeur.
Pas bon entendeur, salut. C'est normal.
Est-ce que tu as une autre question, Olivier ?
Est-ce qu'on va y arriver sans envisager une décroissance démographique ?
Ah ! Alors, j'ai un échappatoire possible facile pour cette question, qui est que la décroissance démographique, on l'aura de toute façon d'ici à 4 milliards d'années, moment où la planète Terre sera bouffée par le Soleil. Donc, voilà. La bonne question est de savoir dans quelles conditions ça va arriver. Alors, si je dis des choses un peu plus désagréables, il est évident que notre planète fait invariablement 13 000 km de diamètre au cours du temps. Elle faisait 13 000 km de diamètre il y a 5 000 ans. Elle fait 13 000 km de diamètre il y a 2 siècles. Elle fait 13 000 km de diamètre aujourd'hui. Et dans un siècle, elle fera toujours 13 000 km de diamètre. Voilà, n'en déplaise à M. Musk. Donc, plus on est nombreux dessus, moins il y a de morceaux de planète par personne. C'est absolument évident. Donc, il y a un petit sujet avec la taille de la population. Et après, ce n'est pas une population mondiale. Ça n'a pas tellement de sens. Après, il y a des populations rapportées à des territoires, des endroits où on peut faire des choses, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la planète prise dans son ensemble peut durablement supporter 8 milliards de personnes voulant vivre comme une classe moyenne occidentale ? La réponse est non. Ça ne marche pas. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? Je ne sais pas. Soit il y aura toujours 8 milliards d'individus et le niveau de consommation va baisser rapidement. Soit le niveau de consommation baissera moins vite et le nombre d'individus baissera plus vite. Alors, qu'est-ce qui fait baisser les individus ? Il y a deux causes, hein, la maladie et la famine. La guerre, ce n'est pas très rapide. La guerre, ça favorise les maladies et les famines, ça oui. Mais les morts militaires stricto sensu, c'est pas énorme, en fait, quand vous regardez bien. Vous rappelez cet exemple fameux, hein, qui est que la grippe espagnole a plus tué que la guerre de 14-18. Donc, et la peste noire a été la régulation la plus violente de l'histoire de l'humanité. Ça a tué la moitié des gens à ce moment-là. Voilà. Et ça a été, très étonnamment, le début de la prospérité européenne, la peste noire. Parce qu'à l'époque, des énergies renouvelables, il y avait plein de moulins. Les moulins servaient à moudre la farine. Et au moment où la peste noire arrive, la moitié de la population disparaît. Et donc, un moulin sur deux se retrouve disponible pour faire autre chose que de la farine. Et qu'est-ce qu'on en fait à ce moment ? Des soufflets de forge, des marteaux, etc. Et en fait, la proto-industrie a démarré au haut Moyen-Âge, juste après. Et ça a préparé l'avènement de la Renaissance. Donc en fait, voilà un exemple peu connu de maladie qui a libéré de l'espace pour ceux qui restaient, pour leur permettre de devenir, entre guillemets, plus opulents. Donc, est-ce qu'on va échapper à une régulation démographique d'ici à ce que, comme disait Keynes, on soit tous morts ? Non. Quelle forme elle prendra, quand, comment ? Pff, ça, j'en sais foutre rien. Est-ce qu'il faut la souhaiter ? Je ne vais pas vous dire oui. Je veux dire, je ne suis en faveur ni des génocides, ni des pandémies, ni des famines. Par contre, est-ce qu'on court le risque à ne pas baisser notre consommation matérielle, de ne pas accroître le risque d'avoir une régulation non désirée ? Là, la réponse est très clairement oui.
Alors, une dernière question. Si on prend d'un point de vue territorial, hein, le Pays Valais de la Sarthe notamment, c'est une toute petite part des émissions de gaz à effet de serre de la France qui, elle-même, est une petite part des émissions de gaz à effet de serre du monde. Hein, vous voyez où je veux en venir.
Est-ce que ça sert quelque chose
est-ce
de se bouger ?
Voilà, est-ce que les actions locales auront une influence sur les émissions globales ?
Alors, la réponse est, de toute façon, il y a motif à agir, même sans ça, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la diminution des ressources. Il faut bien voir, encore une fois, qu'on a deux facteurs limitants possibles dans notre système, c'est la diminution des ressources ou l'augmentation des problèmes environnementaux. Mais il y a un problème qui peut arriver, indépendamment des problèmes environnementaux, c'est la diminution des ressources. Donc, se mettre en ordre de bataille pour des ressources qui, de toute façon, vont baisser, a du sens, quoi que fassent les autres. Mieux, si les autres se foutent du problème, ça veut dire qu'ils vont se goberger de ressources eux aussi, donc il y en aura moins pour nous. Donc en fait, plus les autres s'en foutent, si on prend ça sous l'angle des ressources, et plus il faut qu'on se dépêche d'agir pour se rendre indépendant des ressources en question. C'est un premier paradoxe. Deux, je ne crois pas à la théorie qui voudrait que quand on fait des choses dans une direction donnée, le reste de l'humanité y est indifférent. Vous savez que le mimétisme est quelque chose qui est très puissant chez nous, et du reste, c'est même comme ça qu'on élève nos enfants. L'essentiel de l'éducation d'un enfant consiste à leur faire, par imitation, ce que nous faisons de nous-mêmes. L'imitation, c'est à la base de tous les phénomènes de mode. Pourquoi est-ce qu'il y a des modes et des marques, etc. Tout juste parce qu'on veut imiter les gens qui ont déjà. Enfin, je veux dire, c'est le mimétisme qui est à la base de ça. Donc, l'homme étant un animal extrêmement profondément animé par le mimétisme, l'homme et la femme, je précise, l'idée, je ne souscris pas du tout à l'idée que si on commence à faire des trucs qui flottent face à la question climatique, tous les autres vont nous regarder en disant « Ouais, c'est vachement sympa ton truc, mais je ferai jamais pareil ». Et l'expérience montre que c'est pas ça qui se passe. Donc l'idée que un territoire pourrait faire des choses pertinentes et n'avoir jamais nulle part aucun suiveur dans le monde, j'y crois pas. Par contre, si les choses sont pas pertinentes, les autres ailleurs auront beau jeu de se gratter la tête en disant est-ce qu'il faut faire la même chose. Mais si c'est pertinent, il y aura des suiveurs. Si je prends à l'échelle des pays, la France a déjà fait un certain nombre de choses toute seule dans son coin qui ensuite sont devenues universelles. Par exemple, le système métrique. Par exemple, la TVA. Vous allez dire, TVA, un impôt. Enfin, bon, bref. Il n'y a pas très longtemps, le bilan carbone. C'est-à-dire, aujourd'hui, la norme mondiale sur la manière de faire une empreinte carbone d'une organisation, c'est venu de la France. C'est même venu de votre serviteur, qui un jour a été tout seul. Donc, l'idée qu'on fasse des trucs d'abord dans son coin et qu'ensuite ça diffuse, en fait, c'est la norme, quoi. C'est toujours comme ça que ça se passe.
Donc, agissons.
Donc, il faut agir, sans se gratter la tête.
Merci infiniment, Monsieur Jancovici. Je vous propose de terminer cette soirée. Je vais laisser le président nous dire un petit mot de la fin.
Il en faut un désinfecté.
J'étais négatif il y a 3 jours. Bah, restez avec moi, Monsieur Jancovici, restez avec Yves. Bah oui, quand même, pour le mot de la conclusion. Un mot de la conclusion très, très rapide. D'abord, vous remercier, bien sûr, de votre intervention. Et puis, à plusieurs fois, plusieurs reprises, vous avez dit mauvaise nouvelle, vous nous avez dit ce soir. Mais j'ai envie de dire aussi bonne nouvelle, puisqu'on a un territoire qui s'engage, vous l'avez compris, sur un plan alimentaire territorial, sur de la rénovation énergétique, sur les, ce que vous nous disiez, ce que pouvaient faire des collectivités. Donc, je crois qu'on est sur la bonne voie, on agit. Et puis, l'autre chose que je retiens, c'est que le premier escalier, la première marche de l'escalier, c'est la sensibilisation. Et c'est, je crois, ce qu'on nous a fait ce soir. Et donc, on est sur bonne voie. Il y a aussi des choses positives. Voilà, parce que je voulais terminer cette conférence. Et puis, on voulait vous remercier aussi avec des produits locaux. Alors on n'a pas fait un panier gourmand, on a fait un sac gourmand du Valais de la Sarthe. Alors pour les spectateurs, oui, c'est lourd. Donc on a mis du janière, parce que vous n'avez pas eu le temps de le goûter tout à l'heure. Donc on espère pouvoir le faire. Et puis plein de produits locaux qui sont produits sur le territoire de la Vallée de la Sarthe, des rillettes. Bien sûr, il y a des rillettes. Et puis aussi, nous sommes à Sablé. Donc, le petit Sablé que vous avez là, en effet aussi, puis du miel, enfin, parce qu'on a plein de bonnes choses qui vous rappelleront votre passage dans notre territoire. Et puis, n'hésitez pas de vous y arrêter, parce que passer, c'est bien, mais vous y arrêter, c'est bien.
Je suis arrêté.
Vous êtes à l'arrêt. Merci à vous. Bonne fin de soirée.